Eh bien, merci d'être présent ce soir. Merci à M. Bimbrink d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce soir, eh bien, c'est une conférence donc sur Mars. Mars, la planète bleue. Le nom peut être surprenant parce qu'on a toujours l'habitude de l'appeler rouge, mais on aura peut-être la solution donc, dans une heure. Pourquoi Mars, la bleue ? Et cette conférence donc, a été organisée dans le cadre d'une exposition Argile, histoire d'avenir, hein, qui est proposée à Espace Mars France. Donc jusqu'au 25 septembre, donc vous avez encore un petit peu de temps pour la voir, et elle est présentée donc du mardi au dimanche, hors période de vacances scolaires. Et cette semaine-là, c'est aussi une semaine un petit peu particulière dans le cadre de l'astronomie, donc c'est bien lorsqu'on peut mélanger en fait les thématiques, parce que donc, c'est la semaine du printemps des planétariums, avec donc différentes conférences, j'en parlerai tout à l'heure à la fin de la conférence ce soir, et d'autres animations autour de l'astronomie. Alors ce soir, eh bien, Monsieur Bimbrink, j'en parlais en venant tout à l'heure, il me semble qu'on n'a pas fait de conférence sur Mars depuis 2003. À l'époque, c'était Monsieur Francis Rocard qui était venu. Et 2003, eh bien, c'est une année particulière, on en dira deux mots, parce que par rapport à votre travail, votre recherche, c'est une année vraiment, on va dire, un petit peu symbolique. Hein. Mais voilà, charnière, j'en dis pas plus, hein, je veux pas avancer dans la conférence. Et eh bien, on va découvrir Mars sous un nouvel angle, parce qu'entre ce qui s'est passé en 2003 et aujourd'hui, le visage de Mars a changé, et surtout au niveau de cette recherche au niveau des argiles qui nous fait vraiment découvrir le passé de cette planète. Voilà, je vous laisse la parole. Et donc, tout à l'heure, il y aura éventuellement des questions, des compléments.
Merci beaucoup. Oui, si vous avez des questions pendant, c'est encore mieux. N'hésitez pas, il faut que ce soit le plus informel possible. Je suis très content toujours de pouvoir parler un petit peu de nos affaires martiennes. Effectivement, en 2003, il y a eu le lancement d'une sonde dont je vais vous parler un petit peu, qui a changé un peu notre vie, en tout cas, et peut-être d'autres. Et c'est toujours très utile d'avoir des moments comme ça où on peut prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, mais dans une certaine... prendre un peu de dimension de ce que l'on fait. Et donc, je suis très content d'avoir cette possibilité ce soir. Donc, je vous donne d'abord mes coordonnées pour ceux qui auront besoin de me contacter plus tard, parce qu'en général, c'est toujours le lendemain qu'on a des questions et j'y réponds en général. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une adresse email qui est IAS comme le nom de mon institut d'astrophysique spatiale à l'Université Paris-Sud. C'est ça qui explique le U-Paris-Sud. Et donc, le titre « Planète bleue », c'est lié au fait qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la planète bleue, c'est celle-ci, dont je vais vous parler un petit peu, à vrai dire, au début et à la fin, et qu'aujourd'hui, Mars est comme ça, c'est-à-dire tout sauf bleu, elle est bien rouge. Et c'est de ça dont on va parler pendant pas mal de temps aujourd'hui, plus que quelques minutes. La question, bien sûr, est de savoir si ça a toujours été le cas, si, oui ou non, il a pu y avoir, à un moment donné, sur Mars aussi, des océans, et on va voir que c'est un Graal, c'est une quête qui se passe depuis très longtemps et qui, juste actuellement, est en train de rentrer réellement dans ce qu'on peut appeler une ère scientifique, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une approche réellement scientifique pour essayer de savoir si, oui ou non, il a pu y avoir, à un moment donné, l'apparition de vie sur Mars. Donc c'est de ça dont on va parler, de savoir si Mars a pu être ou pas une planète bleue. Et vous verrez que la question, et c'est là-dessus que j'ai pensé surtout discuter aujourd'hui, elle est directement liée à la question de savoir si la vie a pu démarrer ailleurs que sur Terre, en tout cas dans le système solaire. Et on va voir qu'on n'est pas très loin, je pense, de pouvoir répondre à cette question. Et donc, quelques mots d'introduction peut-être, c'est pour moi-même aussi, pour essayer de voir comment cette recherche que l'on a aujourd'hui et qui change beaucoup au cours de jour en jour, plonge un peu ses racines dans la manière dont les gens ont pensé ce qu'est la vie, comment elle a pu démarrer, etc. Et c'est des choses qui paraissent très simples, en fait, quand on est dedans, mais je suis persuadé qu'on est au cœur d'une véritable révolution sur notre manière de voir la Terre dans l'espace et dans le temps. Et comme toujours, quand on est dans un processus, on n'a pas le recul pour le voir. Donc, quelques mots pour rendre compte un petit peu de la question de savoir si cette Terre que l'on voit ici, comme un objet unique projeté devant soi, est-ce qu'il est banal ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Eh bien, il se trouve que pendant très longtemps, en fait, la Terre a été conçue comme une planète banale. Très longtemps veut dire que ça plonge très certainement ses racines dans l'Antiquité. Mais pendant 2000 millénaires, ça a été un peu abandonné jusqu'à ce que je vais rappeler là, bien sûr, tout le monde le sait ici. Il y a eu quelques événements tout à fait fondamentaux. Bien sûr, 1543, c'est l'année de la mort de Copernic. Et vous savez que c'est à l'année de sa mort seulement qu'il a pu publié ce traité qui fait que cette représentation du ciel où on voit la Terre au centre et les planètes qui ne peuvent plus être sur des mouvements simples, parce que les observations condamnent en fait un mouvement simple de planètes sur des cercles. Or, le cercle a toujours été le mouvement parfait par excellence. Il a fallu énormément de modifications, ce qu'on appelle des épicycles comme ça, pour que les gens arrivent à représenter, à rendre compte de leurs observations, tout simplement, jusqu'au moment où Copernic a dit non, c'est pas comme ça, c'est ça. C'est-à-dire que la Terre a été dépossédée de son rôle central, puisque la Terre est devenue une planète comme les autres. Et ça a été, là, pour le coup, une véritable révolution, même si, en fait, on exagère en disant cela, dans le sens où Copernic lui-même n'a jamais dit que le Soleil était au centre. On appelle ça l'héliocentrisme, pour de bonnes raisons. Mais Copernic, tout prêtre qu'il était, ne pouvait pas dire que la Terre n'était plus au centre, et donc les planètes gravitaient autour du centre de l'orbite de la Terre. Ce qui est quelque part la même chose, mais qui permet d'éviter de parler du Soleil. Mais très peu de temps après, quelques décennies après, il y a un monsieur très important qui est arrivé, qui s'appelle Giordano Bruno, et je ne peux pas ne pas dire deux mots là-dessus, parce que c'est un monsieur qui m'est extrêmement sympathique. Il était italien, évidemment, prêtre aussi, et il a fait ses études à Padoue, comme Copernic, qui est tout polonais qu'il était, a fait aussi ses études à Padoue. Je ne suis pas sûr qu'il ait connu Copernic, mais en tout cas, il savait ce qu'il avait écrit. Il a repris ses écrits pour essayer d'aller plus loin encore. Vous savez qu'il y avait quand même toute une... Quand on cite des gens, bien sûr, c'est toujours un peu trompeur. C'est jamais une personne, c'est toujours des groupes. C'est des idées qui sont un peu ambiantes. Et Giordano Bruno a pris cette idée-là et il a dit... Non seulement Copernic a raison, mais il a fait vraiment un pas que je trouve absolument considérable. Il a dit, quand vous regardez le ciel la nuit, il y a des petits points brillants, ces petits points sont des étoiles. Eh bien, des étoiles, ce sont des soleils. Le soleil est une étoile et les points sont des soleils. Ce qui est, quand on réfléchit, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on était très loin à l'époque de savoir ce que veut dire un soleil. On ne connaissait évidemment pas la fusion thermonucléaire, on ne savait pas ce qui fait que les objets brillent. N'empêche que lui, il en a proposé ce scénario-là, et il faut voir qu'à l'époque, en plus... L'univers était infini dans l'espace et dans le temps. L'univers, bien sûr, n'était pas en expansion et il se propageait à l'infini. C'est-à-dire qu'il y avait autant que vous voulez puisqu'il y en avait une infinité. Et donc, l'univers était infini dans ces mondes puisque tous les points qu'on voyait, c'était des étoiles. Et il a dit cette chose extraordinaire, c'est que si ce sont des étoiles, eh bien, autour de ces étoiles, il y a aussi des planètes. Ça, c'est fantastique. C'est de penser que Giordano Bruno était capable, sans aucune observation, simplement par déduction de ce qu'il comprenait être le fonctionnement de notre système, alors qu'on était bien avant la notion de nébuleuse, bien avant, enfin, on n'avait pas de raison de comprendre que quand une étoile se forme, il y a des planètes autour. Il a proposé ça. Il a tellement proposé ça qu'il en a été arrêté. Je mets la date de 1593, non pas qu'il l'ait proposé en 1593, il l'a proposé un petit peu avant. 1593, c'est la date où il a été dénoncé et arrêté. Et bien sûr, on l'a empêché de prêcher bien avant ça. Et il a dû finir sa vie comme précepteur, en fait. Et il se trouve qu'il était précepteur d'une famille à Venise, à quelques pas de l'endroit où on sera la semaine prochaine, dans un palais qui est sur le Grand Canal, juste au-dessus, entre le Rialto et le pont de l'Académie. Il a été dénoncé par le père des enfants dont il s'occupait en 93. Il a eu son procès immédiatement après à Rome. Et il a été, en 1600, condamné à être brûlé sur un bûcher. Si vous allez à Rome, ce que vous faites de temps en temps, il faut que vous alliez sur ce qui s'appelle le Campo dei Fiori, la place des fleurs, qui est de l'autre côté de la place Navone. Au centre de cette place, il y a une statue, qui est la statue de Giordano Bruno. Personne ne sait que cette statue, c'était à l'endroit de son bûcher, en fait, où il a été brûlé vif le 17 février 1600, 33 ans avant le procès de Galilée. C'est quelqu'un vraiment très important. Alors, comme il n'a pas écrit que des choses comme ça, il était un peu aussi ésotérique, tout ça, donc les gens essayent de raccrocher sur d'autres écrits qu'il a pu faire pour justifier qu'il ait pu être mis à l'écart par l'Inquisition, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, cette notion de pluralité des mondes, bien sûr, il ne l'a pas créée. C'est une notion, comme toutes les autres notions, quelque part, qui était déjà dans l'Antiquité. On trouve des textes anciens qui parlent de la nécessité, forcément, de représenter l'univers comme un monde infini d'objets tels que le nôtre. Et les Grecs n'avaient pas de difficulté par rapport à ça. Il n'y avait pas de centrisme sur la Terre à l'époque. N'empêche que le monothéisme, en particulier, a imposé un carcan important. Et il a fallu des batailles énormes pour ressusciter cette idée. Et c'était tellement difficile, et si j'insiste un peu là-dessus, c'est que cette notion de pluralité des mondes, à savoir que c'est partout égal à soi-même, c'est encore une idée qui, pour l'essentiel, je dirais, elle est certainement majoritaire sur notre globe actuellement, et quand dans nos combats avec les anglo-saxons, même sur la recherche martienne, on est en permanence en prise avec ça. L'idée, c'est que la Terre n'a rien d'exceptionnel, ce que l'on a sur Terre est forcément ailleurs. Alors, il faut voir que cette notion de Terre comme une planète banale, Elle a perduré, je veux dire, typiquement de Giordano Bruno, 1600 jusqu'à maintenant, à quelques années près. Et entre autres, il faut aussi se rappeler quelque chose. Si je dis ça, c'est que vous allez voir que ça a beau être ancien, c'est très présent. Et quand nous, on travaille sur ces sujets-là, on ne peut pas ne pas les mettre dans ce contexte-là. Il faut voir que la Terre, tout le monde, on est tellement habitué à avoir des photos de la Terre vue de l'espace, puisque l'espace a été banalisé depuis quelque temps, pas si longtemps que ça, ça fait jamais que 3 décennies, mais il n'y a plus de livres où on démontre que la Terre est ronde. Il faut voir que quand j'étais jeune, ce qui maintenant, hélas, remonte à quelque temps, la Terre, c'était une masse infinie sous nos pieds. On démontrait encore, dans les bouquins de cosmogonie des années 50 et 60, on démontrait encore que la Terre était ronde. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, bien sûr. Tout le monde a vu des images comme celle-ci. Eh bien, il y a eu une cassure quelque part dans l'évolution sociale, je dirais. C'est le jour où, pour la première fois, on a vu la Terre devant soi. Et ça s'est passé le 24 décembre 68. C'est-à-dire que, en fait, contrairement à ce que certains disent, il s'est passé un tas de choses en 68, dont le fait que, pour la première fois, des gens ont vu la Terre devant eux, projetée comme une Terre, comme une planète. Ce qui s'est passé en 68, c'est que, je ne vais pas faire un cours sur l'historique du spatial, encore que c'est génial d'ailleurs ces affaires-là, mais enfin bref, il faut bien voir que le spatial est né en Union soviétique, hein, 4 octobre 57, ils ont envoyé le premier Spoutnik, le fameux Bip Bip, et puis ensuite ils ont fait première sur première, ils ont fait en janvier 59 la première mission interplanétaire, ils ont décidé, moins d'un an et demi après le Spoutnik, de fabriquer un engin qui quitterait la gravité terrestre, initiant les voyages interplanétaires, et ça a été les sondes vers la Lune. Et pour le deuxième anniversaire de Spoutnik, donc en octobre 59, ils ont même fait mieux. Ils ont même fait une sonde qui s'approchait suffisamment de la Lune pour passer juste à côté, mais qui se passait à côté à une distance telle que, compte tenu de la vitesse qu'elle avait à côté, elle a été prisonnière. Donc ils ont fabriqué un satellite qui, pour la première fois, a été exploré la face cachée de la Lune. Et c'est là que les gens se sont dit, mais si on va voir la face cachée, on va voir un truc que l'homme ne verra jamais, il faut faire des images. Et ils ont créé les premières images dans l'espace. La première image jamais faite dans l'espace, c'est une image de la face cachée de la Lune. D'ailleurs, on voit qu'elle ne ressemble pas à la face qui nous fait face. Mais bref, il y a eu des premières comme ça, jusque, bien sûr, au 12 avril 61, chose qu'on va fêter dans quelques semaines. Dans 2 semaines, on va fêter les 50 ans de Gagarine. Et ça va être un grand événement là-bas. Ça a été un incroyable événement. Il faut voir ce que veut dire qu'avoir envoyé quelqu'un dans l'espace. Ce n'est pas là-dessus que j'étais venu vous parler, mais il faut l'imaginer quand même. Chose est-il que le 12 avril 61, il s'est passé quelque chose de tout à fait fondamental. Pour la première fois, l'homme a acquis la capacité d'en envoyer d'autres dans l'espace. Certes, il a fait qu'un tour, mais il a été fondamental, celui-là. À tel point que, de première en première, l'Union soviétique faisait quelque chose qui était contradictoire avec ce qu'on entendait partout, à savoir que c'est le Moyen-Âge de là-bas. Et donc, les Américains devaient répondre. Et la réponse qu'ils devaient faire, c'était, qu'est-ce que vous voulez faire? Une fois que les autres ont déjà fait le premier Spoutnik, le premier machin et le premier homme dans l'espace, il ne reste plus grand-chose. Et si vous regardez ce qui s'est passé donc après le 12 avril 61, le président des États-Unis, Kennedy, il a décalé son message sur l'Union au 5 mai, et le 5 mai, il a annoncé, on ne l'attendait pas sur le taux d'inflation des États-Unis, on l'attendait sur la réponse à Gagarine, et sa réponse a été, avant la fin de la décennie, il y aura un homme, non pas un homme, mais un Américain sur la Lune. Et c'était le démarrage du programme Apollo qui était extraordinaire, parce que c'était un coup de génie, parce qu'il n'y avait rien qui permettait à Kennedy de dire, on pourra aller sur la Lune. La technologie de l'époque, on venait de passer des lampes aux transistors, ça ne permettait pas d'aller sur la Lune. Il a fallu qu'il crée une discipline qui maintenant est routinière, qui s'appelle la microélectronique. Silicon Valley est né de cette décision-là. Et ils ont reconquis, si les États-Unis ont vraiment reconquis le leadership mondial, c'est par ça. Bref, tout ça pour dire que dans les années 60, les Américains avaient un objectif, c'est de réaliser ça. Ce qui a été très difficile, vous savez qu'il y a eu 3 morts dans Apollo, en Apollo... Le premier Apollo, Apollo 1, en 66, les 3 premières personnes qu'ils ont mises ont fabriqué la plus grosse fusée au monde, Saturne V Titan. Plus de 100 mètres de long d'hydrogène et d'oxygène liquide. Un truc fou, quoi, extraordinaire. 100 tonnes en orbite basse. Un truc incroyable. Et la première fois qu'ils ont mis 3 mecs dessus, là-haut, pour tester la capsule, il y a eu une fuite d'oxygène qui a pris feu, ils sont morts. Ce qui a été accepté quelque part parce que ça allait vers un objectif, ça part. Tout ça pour dire qu'en 68, ils n'étaient pas encore partis sur la Lune et la CIA a fait courir ce bruit absolument dingue. Y a un problème, les Soviétiques sont en train de préparer un truc, ils vont être sur la Lune. Alors là, les Américains se disent, ah non, on n'a pas fait tout ça pour ça quand même, non, il faut, tant pis, allez. Ils avaient une sonde qui s'appelait Apollo 8, qui était prévue pour rester en orbite autour de la Terre pour tester tous les systèmes, ils se sont dit, allez, vous allez sur la Lune. Et voilà qu'Apollo 8 embarque 3 GUS pour aller faire le tour de la Lune. Bien sûr, ils n'avaient pas encore le LEM, donc ils ne sont pas descendus sur la Lune, mais ils sont partis, ils ont fait le tour, ils sont revenus. Et on retient de ça cette photo absolument extraordinaire, je ne l'ai pas mise là, qui est cette photo où on voit la Terre au fond et la Lune en premier plan, qui traîne dans tous les bouquins maintenant, qui est incroyable. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ça. C'est que pour la première fois, ils avaient un Hasselblad, un 6-6 sur le ventre, et ils ont fait la photo de la Terre vue de l'espace. C'est la première fois qu'un homme voyait une boule qui flottait parmi les autres boules comme notre planète. C'était un choc incroyable, ce truc-là. Eh bien, quand on regarde, on aurait pu faire une conférence que là-dessus, discuter que de ça, parce que cette idée de la Terre vue de l'espace, elle a incroyablement changé au cours du temps. C'est pour ça que je vais rester 2-3 minutes là-dessus, parce que vous allez voir, c'est... on était encore à ce moment-là dans l'idée de Giordano Bruno, c'est-à-dire la Terre, elle est comme tout le reste. Et la première remarque que l'on s'est faite, cette première image, ce que je mets là, c'est que la Terre, elle est comme les autres finalement. Ben voilà, elle est ronde, elle, c'est une boule qui flotte dans l'espace. Personne à l'époque ne voyait dans cette Terre ce qu'il y avait d'unique dans cette Terre, ce sur quoi on va revenir après. Et donc, c'était entièrement intégré là-dedans. Et donc, si la Terre est une planète balade, la vie est quelque chose de parfaitement générique. Vous savez, hasard, nécessité, le bouquin de Monod, etc. Vous laissez le temps, forcément, la vie apparaît. Les atomes donnent des molécules de la chimie organique donne de la biochimie, etc. On ne sait pas trop comment, mais forcément, ça fonctionne. Et cette notion de vie générique a plombé pas mal le système pendant très longtemps, parce que c'était là-dedans qu'on était dans les années 60. Et vous allez voir. Et donc, c'était ce que je mets ici, le cadre idéologique opérant. On était dans le monde de... Et donc, forcément, c'est comme ça, la vie doit exister ailleurs. Et on va voir que Mars, bien sûr, sera la première cible, et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Mais c'est pour bien que vous compreniez que les premières missions n'allaient pas pour chercher s'il y a de la vie ailleurs, mais pour la chercher, puisqu'elle y est, on en est sûr, puisque c'est comme ça, c'est écrit dans le grand livre. Et il faut bien réaliser que jusqu'à ce moment-là, ce qu'on appelle l'exobiologie aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche de la vie, n'était pas une discipline scientifique. C'était hors de ce que j'appelle hors de l'horizon d'observabilité. Il n'y a rien qui permettait, il n'y a aucune observation qui permettait de dire s'il y a ou s'il n'y a pas de la vie dans l'espace. Il n'y avait aucune mesure capable de le faire. Il n'y a rien qui indiquait cela. Et pourtant, tout était intégré comme ça. Et tout le monde était convaincu que Mars était l'habitat le plus favorable. Un mot justement sur les affaires martiennes, et je vais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que Mars a toujours été considéré comme ça, indépendamment que c'est la plus accessible quelque part. Il y a longtemps qu'on peut observer Mars au télescope. Mais bien avant qu'on observe Mars au télescope, les gens savaient que Mars était rouge. C'est le point le plus rouge du ciel quand on le voit. Et donc, un mot sur d'abord l'origine de Mars. Vous savez que Mars, dans l'Antiquité, le rouge était assimilé au sang. Sang veut dire la mort, la guerre. Et on sait comme ça récupérer le pire des dieux du panthéon grec et romain. On leur en veut beaucoup parce qu'il y a quand même un panthéon si folklorique. On sait récupérer le dieu de la guerre, mais c'est comme ça. Mais heureusement, à partir du 18e et du 19e siècle, le rouge a été assimilé non plus au sang, mais à la rouille. Et là, on est arrivé à ces syllogismes absolument incroyables. Qui dit rouille dit eau, qui dit eau dit vie. Sans que, ce que je mets ici, rien ne montrait que si Mars est rouge, c'est parce qu'elle est rouillée. Rien ne montrait que si c'est rouillé, c'est par de l'eau. Et rien ne montrait que s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et en particulier, ce couplage entre l'eau et la vie est resté, et encore pour une grande part jusqu'à aujourd'hui, comme... un couplage dont on comprend juste maintenant, je dirais, non pas à l'échelle historique, mais à l'échelle de quelques années-là, en quoi l'eau a été si importante dans l'origine de la vie sur Terre. Bon, c'est lié, bien sûr, intrinsèquement à la nature de la molécule d'eau elle-même, qui est une molécule non symétrique, polaire, qui ionise les choses, etc. Il y a plein de choses dans la molécule d'eau elle-même qui favorisent. Mais ce qu'on n'a pas réalisé jusqu'à très peu de temps, c'est que si l'eau était importante, c'est qu'on avait besoin d'un liquide pour protéger du rayonnement ultraviolet solaire et que l'atmosphère primordiale de la Terre ne permettait pas de se protéger contre ça et toute molécule, même à la surface de la Terre, était immédiatement détruite. Et c'est pour ça que la vie est partie dans l'eau et qu'il a fallu 2 milliards d'années pour qu'elle en sorte quand même, pour que la vie dans l'eau arrive à se fabriquer elle-même son propre écran par l'oxygène et l'ozone pour en sortir. Donc tout ça, bien sûr, on ne le savait pas au 19e siècle. Et malgré tout, il y avait toujours cette idée que l'eau et la vie sont liées. Si vous prenez les Larousse du XXe siècle, les premiers tomes à la fin du XIXe siècle, c'est vraiment incroyable. Vous regardez les gravures de toutes les planètes, il y a de l'eau sur toutes les planètes. Parce qu'on était vraiment dans cette idée que puisqu'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout. Parce que la vie entraîne l'eau et l'eau entraîne la vie. Comme vous allez voir, c'est déjà la conclusion pour ceux qui n'écouteront pas jusqu'à la fin, mais on va montrer qu'effectivement, si Mars est rouge, c'est bien que ça a été rouillé, mais que ça n'a pas été rouillé par de l'eau. Et bien sûr, on ne connaît pas la réponse. Mes excuses. On ne connaît évidemment pas la réponse à la dernière question, parce que si on l'a compris, vous le sauriez aussi bien que moi. Mais je vais arrêter ça d'abord. Excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, c'est de ça dont on va parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait de Mars qui nous permet de dire ça? Et vous allez voir que les choses ont pas mal évolué. Mais pour vous montrer à quel point ça était ancré, il y a ceux qui s'intéressent un peu à la science martienne savent que ça, on a eu à la fin du 19e siècle des choses incroyables. Les gens regardaient Mars au télescope. Or, on sait très bien qu'avec même les meilleurs des télescopes, la précision de détail est telle qu'on ne peut pas voir ce que les gens prétendaient voir. Ce sont des artefacts, en fait. Mais les gens pensaient voir à la surface de Mars des grandes structures qui rendaient compte du fait que les gens près de l'équateur étaient obligés d'amener de l'eau des pôles Et cette eau d'épaule était ramenée par des canaux d'irrigation. Et c'est ça que les gens... Et à tel point qu'un mec qui s'appelle Lowell aux États-Unis a obtenu même de l'État la construction du plus grand système de télescope de l'époque, et toujours en Arizona, avec un télescope de 2 mètres pour mettre ça en évidence. Mais qu'est-ce qui faisait dire ça? C'est qu'on sait depuis longtemps que Mars a des calottes polaires et que les calottes polaires permettent de dessiner un axe autour duquel la planète tourne. Et quand on regarde l'angle en question par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique, le plan de l'orbite de Mars autour du Soleil, c'est 25 degrés. Pour la Terre, c'est 23 et quelques, donc c'est très proche. Et quand on regarde la vitesse à laquelle Mars tourne sur elle-même, c'est à peine plus que 24 heures. C'est 24 heures et 37 minutes. Donc c'est vraiment complètement comme chez nous. Et donc les gens se disent, ben voilà, il n'y a pas de problème. Il y a des saisons, des jours et des pareils. Et en plus, ce qu'on voyait au télescope, c'est qu'au gré des saisons, précisément, il y a des couleurs qui changent à la surface de Mars. Et donc, les gens se sont dit, s'il y a des couleurs qui changent, eh bien, c'est éventuellement de la végétation. Et effectivement, quand on regarde, même maintenant, avec Hubble, voilà une photo de Mars en juin, voilà la même 3 mois plus tard, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé entre les deux. Alors, bien sûr, maintenant, c'est tellement compris qu'on sait bien ce qui s'est passé. Et ce qui se passe, c'est qu'on sait, mais on ne le savait pas depuis, on ne le savait pas au début des années 60, la pression à la surface de Mars, j'y reviendrai, est extrêmement faible. Elle est 100 fois plus faible, plus que 100 fois inférieure à la pression terrestre. Elle est faite essentiellement de gaz carbonique et d'azote, on verra que c'est important du reste. Et quand l'hiver, il fait très froid au pôle, le gaz carbonique gèle, se condense, et la variation de pression est énorme. On peut avoir jusqu'à 25% de variation de pression. Sur Terre, à 3 ou 4%, c'est un cyclone. Les tornades démarrent à 2 ou 3% de variation de pression, ce qui est déjà gigantesque. 25%, c'est considérable, ce qui veut dire que saisonnièrement, vous avez des tempêtes de sable qui naissent à la surface de Mars, et que c'est ces tempêtes de sable, malgré la pression très faible, qui recouvrent toute la planète et qui font que les couleurs changent. Mais pour vous montrer à quel point les choses sont assez folles, c'est que jusqu'à l'ère spatiale, il n'y a rien qui permettait de mettre en évidence le vivant. Il n'y a rien qui permettait d'ailleurs de le combattre non plus. Il n'y avait tout simplement pas de mesure, de fait. Eh bien, on ne pouvait pas s'empêcher d'interpréter tout en fonction, en faveur de la vie. Et je vous montre ici quelque chose que je montre de temps en temps. Jusqu'à la fin des années 50, au début des années 60, les gens qui faisaient de l'astro avaient dans leur bibliothèque un livre, et un seul, qui s'appelait Astrophysique Générale. D'ailleurs, c'est marrant de penser que toute l'astro tenait dans un bouquin. Et dans les bonnes bibliothèques, il y a encore un bouquin relié rouge qui était fait par deux personnes qui étaient extraordinaires, qui s'appellent Schatzman et Pecker. Schatzman vient de mourir, Pecker est toujours en activité. Ce sont des grands astrophysiciens. Donc si je dis ça, ce n'est pas du tout pour dire que c'est pour montrer à quel point, qu'est-ce qui se passait dans le monde à l'époque. Eh bien, ils ont fait un grand bouquin donc, sur l'astrophysique. Et à la fin, oui, on est déjà page 713, il y a les planètes. Il y a 10 lignes par planète. Et pour Mars, ça commence par cette phrase évidemment stupide. Mars est une planète bien connue. Je dis toujours aux étudiants, il ne faut jamais savoir ce que ça veut dire. Il y a 10 lignes et au bout, alors tout ça est vrai, les couleurs changent et c'est marqué. Les variations saisonnières des calottes polaires sont marquées, des points blancs sont laissés, tout ça c'est vrai. Il s'agit de sommets Mars, bon ça évidemment c'est pas vrai. Les régions vert sombre tournent au jaunâtre à l'automne. Il pourrait s'agir de plantes de type talophyte ou mucinée ou d'algues de glacier. Il n'y a rien qui dit ça, il n'y a rien qui disait qui pouvait être... On ne pouvait pas, même Schatzman et Pecker, Schatzman était président de l'Union rationaliste, vous voyez, donc c'est quand même pas... Il ne pouvait pas ne pas interpréter les données en disant... voilà, s'il y a des couleurs qui changent, voilà le type de plante qui ça pourrait être. Il y a de la végétation sur Mars. Pour dire à quel point cette affaire de pluralité des mondes, elle n'est pas triviale. Voilà, et donc, tout ça pour dire que, forcément, à partir des années 60, à cause de ça, le fait que la vie doit exister, Mars est forcément la première cible. Et dès qu'on a eu la capacité d'aller voir, et je vous ai dit que c'était initié à partir de la fin des années 50, 59, par les sondes vers la Lune, dès qu'on a pu, on y a été. Et la première mission qui a été faite, c'est la mission Viking qui a été décidée avant même la fin du programme Apollo. Vous avez vu que la photo, la fameuse photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est 68. C'est à ce moment-là, fin 68, début 69, que les Américains ont décidé le programme Viking. Le programme Viking, c'est un programme incroyable, avec deux sondes qui, à l'échelle, c'est à peu près l'échelle de l'image qui est là, et même l'image est un peu plus petite que ces sondes. C'est des énormes engins. Il y en a deux qui sont partis à l'époque, on doublait tout. Des engins de plus de 600 kg qui devaient se poser le 4 juillet 76 pour fêter le 200e anniversaire de la création des États-Unis par cette découverte remarquable que, bien sûr, il y a de la vie sur Mars et de l'identification de la vie. Et c'est des missions incroyables qui ont été faites avec, vous voyez, un bras comme ça. C'est ce que je mets la première mission réellement exobiologique où il y avait ce bras qui devait aller chercher des échantillons. Et là, on voit une vraie photo prise à la surface de Mars par l'une d'entre elles, Viking 2. Vous voyez déjà le bras en blanc là, et les pelletées qui ont été prises. Et l'idée, c'était de prendre de cette caillasse, la ramener dans des containers et de mettre cette poussière en contact avec des éléments nutritifs pour regarder s'il y avait du métabolisme et de regarder si c'était du CO2 qui se transformait en oxygène ou de l'oxygène qui se transformait en CO2 pour l'essentiel. Et il y avait des espèces marquées pour essayer de regarder si ça marchait bien, etc. Chose incroyable, ça a été fait, les manips étaient très performants. Je dis c'est incroyable quand on réalise aujourd'hui à quel point, et c'est évident aujourd'hui qu'ils n'avaient zéro chance de trouver, parce que là ils sont posés, on le comprend même aujourd'hui, l'atmosphère martienne était tellement, mais on le savait évidemment pas à l'époque, l'atmosphère martienne était tellement peu dense qu'avec moins de 10 millibars, vous ne pouvez même pas, le rayonnement ultraviolet frappe de plein pied tout ça. Donc de toute manière, et d'ailleurs, les premières manips ont montré qu'il n'y a même pas de carbone à la surface. Il y a moins de carbone à la surface de Mars qu'il y en a dans les échantillons lunaires. Et pourtant, sur la Lune, où il n'y a pas de carbone, le carbone est entièrement implanté par le vent solaire qui rentre dans les... Parce que le carbone, dès qu'il y a une molécule de carbone à la surface, il est détruit. Et le CO2 qu'on a, qui est très peu abondant, il procède d'un équilibre en permanence entre ce qui est détruit et ce qui est fabriqué. Tellement le rayonnement ultraviolet est important à la surface de Mars. Mais bon, ils ont fait ça. Et pourquoi ils sont posés dans ces endroits-là? Parce que c'était des grandes mers, qu'on verra dans un moment, qui étaient très lisses et qui étaient bien sûr les plus faciles à se poser. Et ils étaient convaincus que où que l'on se pose, on va trouver à la surface des organismes vivants. C'était les premières expériences exobiologiques très fortes. Et comme vous le savez, donc, ce que je mets ici, il n'y a pas eu de détection non ambiguë de vie. Je le mets comme ça parce que quand vous avez un résultat négatif, et c'est toujours le problème avec les résultats négatifs, vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez pas, c'est très difficile de démontrer que ça n'y est pas. Vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours dire, ben voilà, c'est qu'on n'a pas été capable de le voir. Et il y a toujours des gens qui pensent que Viking a vu quelque chose, que les résultats sont interprétés par des organismes vivants. Ils ne sont pas très nombreux ceux-là, mais c'est extrêmement difficile de démontrer la non-existence de quelque chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de détection non-ambiguë, c'est-à-dire que tous les résultats peuvent s'interpréter sans organismes vivants, uniquement avec de la chimie en milieu peroxydant, c'est-à-dire très oxydant. Et on est convaincu que c'est ça que Viking a mis en évidence, mais on ne peut pas le démontrer d'une manière formelle. En tout cas, c'était le résultat. Et donc, voilà une photo du site l'été, voilà une photo du même site l'hiver. On voit bien qu'il y a de l'eau qui se dépose, même si à l'époque on ne savait pas que c'était de l'eau. Depuis, nous avons montré que c'est bien de l'eau, des molécules d'eau, c'est du givre. Très peu abondant en tout, ça fait un centième de millimètre équivalent, donc on ne peut pas skier dessus, mais c'est bien de l'eau. Et la raison, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, à la surface de Mars, l'eau n'est pas stable à l'état liquide. Je rappelle que vous savez que l'eau, comme tout constituant, peut être solide, de la glace, vapeur ou liquide, mais pour que les trois existent, il faut non seulement que la température le permette, on sait bien qu'il faut être au-dessus de 0 degré Celsius, mais il faut aussi que la pression le permette. Si vous êtes à trop faible pression, vous passez directement de la glace à la vapeur ou de la vapeur à la glace, selon que la température passe de part et d'autre de 0 degré, et c'est exactement ce qui se passe à la surface de Mars. Ce qui manque à la surface de Mars, c'est pas de la chaleur, c'est pas le fait qu'il fait... parce que la température, en plein d'endroits, monte au-dessus de 0 degré Celsius. C'est la pression qui manque. Il n'y a pas assez de gaz. Et on va voir que c'est la chose très importante d'expliquer pourquoi il n'y a plus aujourd'hui d'atmosphère à la surface de Mars. Donc voilà où on en est. Et vous voyez que déjà cette notion de pluralité des mondes avec Viking, ça a commencé déjà à la fin des années 70, un petit peu à branler dans le manche. Et juste un mot pour vous dire, qui est un peu indépendant de ça, mais pour que vous compreniez un petit peu dans quel climat on était quand on a démarré nos affaires. On se retrouve à la fin des années 70. Tout le monde était convaincu de ceux qui avaient fait ces missions que ça allait marcher sur Mars, ça ne marche pas. Et les gens se disent, mais bon Dieu, où est-ce qu'aujourd'hui on a une petite chance de trouver de l'eau à l'état liquide? Et bon, qu'est-ce qu'on avait comme moyen d'observation à l'époque? On avait essentiellement le télescope, puisqu'on avait été à peu près nulle part encore à ce moment-là. Or, il se trouve que quand vous observez les objets au télescope et qu'à partir de ça, vous essayez de regarder quelles sont les conditions atmosphériques qui permettraient à de l'eau d'être stable à l'état liquide, il y a un objet seulement, un seul, qui permettait de dire il y a peut-être du liquide et donc de l'eau à la surface. Et cet objet, c'est Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne. Saturne est très éloigné du Soleil. Il est 10 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre. Donc il y a 100 fois moins d'énergie par unité de surface. Donc il fait, a priori, s'il n'y a pas quelque chose qui retient l'énergie, il fait extrêmement froid. Mais il se trouve que dans l'atmosphère de Titan, on voyait qu'il y a du méthane. Et c'était même la seule chose que l'on voyait. Parce qu'il se trouve que s'il y a du méthane quelque part, comme justement c'est un gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il bloque le rayonnement infrarouge. Et donc il y a une signature infrarouge, une signature spectrale, une couleur dans le domaine infrarouge, très facile à mettre en évidence. Et donc les gens voyaient qu'il y avait du méthane. Et c'est même le seul truc qu'ils voyaient. Et si vous regardez les images que la NASA avait fait passer au Congrès pour faire passer cette mission qui s'appelle Voyager, la mission Voyager, qui s'appelait Grand Tour avant, qui a été convertie par ça, qui a dû partir très vite en 1977 parce que c'était une conjonction très favorable pour aller sur Saturne. Le but, c'est d'aller sur Saturne, et pas seulement sur Saturne, mais sur Titan, et de faire un rase-mode de Titan pour aller chercher cette eau à l'état liquide. Et les images de la NASA à l'époque, c'est une image de synthèse où vous voyez, au moment où la sonde passe près de Saturne, en rase-mode de Titan, vous voyez l'ombre de Saturne qui se reflète dans les lacs de Titan avec des geysers à côté, etc. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher l'eau là-dessus. La sonde part, c'était une conjonction de planètes tout à fait remarquable. Ça part en 77, ça passe en 79 dans la banlieue de Jupiter, et ça fonce et ça arrive en 81 dans la banlieue de Saturne. Et ça va faire un rase-mode de Saturne, de Titan. Les images qui avaient été prises, je vous en montrerai une ou deux, de la banlieue de Jupiter ont été incroyables, spectaculaires. On a découvert les satellites de Jupiter, le satellite galiléen, une mer inouïe. Et ça arrive à une caméra fantastique, une caméra qui, arrivant sur Titan, fait des images avec ça. J'ai marqué une image comme ça. Et au moment où on arrive sur Titan, on fait cette image et on voit ces trucs comme ça. On ne voit rien. Les gens se disent, mais c'est incroyable ce manque de chance. On arrive et la caméra qui tombe en panne. Donc ils braquent la caméra vers Saturne. Et tout d'un coup, sur Saturne, extraordinaire. On retrouve l'équivalent de la tache rouge de Jupiter avec des détails. Génial. La caméra marche. Ils rebraquent sur Titan. Ah, rien. On ne voyait rien de Titan. Et plus on s'approche, moins on voyait. Et l'idée, c'est qu'il n'y a rien à voir sur Titan parce qu'en fait, Titan est recouvert d'un brouillard à couper au couteau. Parce que l'atmosphère de Titan n'est pas faite de méthane. Il y a 1% de méthane et 99% d'azote moléculaire. Mais il se trouve que l'azote moléculaire, ce n'est pas un gaz à effet de serre, on le sait bien, et qu'il n'y a pas de signature dans l'infrarouge, donc on ne peut pas l'avoir à distance. Donc personne ne pouvait voir l'azote, et donc personne n'a imaginé qu'il y ait une planète à part la Terre où il y ait de l'azote moléculaire. Et c'est de l'azote qui est quasiment en équilibre avec de l'azote liquide. Il fait moins de 200 degrés à la surface de Titan. Donc bien sûr, le rêve qui est de l'eau et tout ça est abandonné. Et même s'il y a une chimie très intéressante à la surface de Titan, ce n'est pas une planète de vie. Donc finalement, cette idée que la Terre est comme tout le monde, tout d'un coup, on regarde cette image, on se dit, mais peut-être qu'on n'a pas bien vu cette image. Ce qui frappe là-dedans, ce n'est pas qu'elle est comme les autres, c'est qu'elle est bien sûr complètement différente. Et ce que je symbolise ici, c'est ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, à nouveau très vite. En même temps, on a envoyé des sondes un petit peu partout dans le système solaire. On a vu Mercure et tout d'un coup, on trouve un truc comme la Lune, avec malgré tout des choses un peu différentes qui sont comme de la tectonique de plaques à la surface de Mercure. Et puis on voit Vénus qui n'a rien à voir, avec possibilité d'aller la voir à sa surface avec uniquement des rayonnements radio, parce que l'atmosphère de Vénus est tellement opaque, il y a 100% de couverture en nuages, que même si vous étiez à la surface de Vénus, vous ne savez même pas que le Soleil existe tellement l'atmosphère est opaque. Mais on peut passer à travers et tout d'un coup, on voit qu'il y a des sondes fantastiques dont je ne parle pas ici qui ont fait une exploration. Il y a des milliers de volcans à la surface de Vénus, très importants. La Lune, que l'on connaît bien, on a été posé et on en a fait le tour. La Terre, tout d'un coup, qu'on retrouve différemment. Mars, qu'on a été exploré très différemment. Ça, c'est un raccourci des quatre satellites galiléens dont je vous ai parlé tout à l'heure, où tout d'un coup, on s'est aperçu que ces quatre objets, là, ils sont à la taille relative. Ces quatre objets qui sont vraiment au même endroit de l'univers, au même endroit de l'espace, ils sont dans la banlieue de Jupiter, formés du même matériau, le même âge. Il n'y a pas deux qui se ressemblent. Europe, c'est que de la glace avec des crevasses, pas un cratère. Io, c'est l'objet le plus volcanique du système solaire. Il n'y a pas un point à la surface de Io qui n'est pas entièrement recouvert de lave tous les milliers d'années, tellement c'est actif. Et ça, c'est pour des effets de marée incroyables. C'est la gravité qui fait ça. Callisto, c'est un objet qui, quand on le regarde, ressemble à Mercure ou à la Lune, bourré de cratères d'impact. Et Ganymède, il y a de la glace et des cratères d'impact. Il n'y a pas deux qui se ressemblent. Or, ils ont la même origine. Ils ont le même âge, ils sont faits du même matériau, et pourtant, ils ne sont pas pareils. Et donc, en 20 ans, quand on regarde un petit peu toutes ces images, comment, au début, là-bas, vous voyez, ce que j'ai mis là-haut, c'est avant l'ère spatiale. La plupart des objets qu'on connaissait du système solaire, c'est des points non résolus sur des plaques photographiques, parce qu'on n'avait pas de précision de détails. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. Mercure et Vénus, on ne savait rien. La Terre, c'était uniquement un truc plat, etc. Tout d'un coup, on fait tout ça. Et l'idée qu'on en a, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce que je mets ici, en 20 ans, ce qui frappe, ce n'est pas du tout que les objets sont pareils. C'est une incroyable diversité que personne n'avait imaginée. Regardez tous les bouquins de science-fiction des années 50, il n'y en a pas un qui pouvait postuler ce genre de choses. Et en même temps, c'est ça qui est ahurissant, avec les mêmes techniques, on s'aperçoit, ça paraît banal aujourd'hui de le dire parce que c'est tellement acquis, que tous les objets sont formés du même matériau d'origine, la fameuse nébuleuse de Laplace et de Kant, et que ce n'est pas une formation catastrophique comme avait pensé Buffon et qui était toujours à l'ordre du jour dans pas mal de théories jusqu'au milieu des années 50 du siècle dernier. Donc, un même point de départ et pas deux objets qui se ressemblent après. Et tout d'un coup, quand on voit la Terre, bien sûr, ce qui frappe, c'est que tout d'un coup, en la regardant, on s'aperçoit que rien de ce qu'elle a, on ne le retrouve ailleurs. Et on s'aperçoit tout d'un coup que le fait qu'elle soit recouverte d'océans, ce n'est pas un truc trivial du tout, parce que maintenant qu'on commence à comprendre les conditions qu'il a fallu, et peut-être un peu plus tard je vous raconterai ce qu'on pense être l'évolution du système solaire, qui fait que de l'eau est toujours stable à l'état liquide, et l'a été pendant plus de 4 milliards d'années. C'est quelque chose d'ahurissant quand on réalise le nombre de conditions qu'il a fallu pour qu'on en soit là aujourd'hui, et la couverture en nuages. Juste un mot là-dessus, parce que je n'aurai pas le temps de vous en parler après. C'est un des peut-être les paramètres les plus importants qu'on observe de la quand on voit une image comme celle-ci de la Terre, ce qui est blanc, bien sûr, c'est les nuages, parce que c'est une photo prise à l'extérieur. Si les nuages sont blancs, c'est qu'ils renvoient dans l'espace 50% de l'énergie qu'ils reçoivent, donc c'est une grande quantité. Donc vous voyez, 50%, c'est-à-dire que si vous augmentez de 10% la couverture en nuages, vous diminuez de 5% l'énergie qu'il y a en dessous. C'est considérable. S'il y avait 5% d'énergie en moins, ça ferait un énorme changement climatique. Ce qui veut dire que la couverture en nuages de la Terre est strictement constante au cours du temps. Et non pas à l'échelle de la semaine ou de l'année, mais du milliard d'années. C'est quelque chose d'absolument dingue. Or, en même temps, on s'aperçoit que la Terre est le seul objet qui soit recouvert à peu près de 50-50. C'est 40-60, mais c'est à peu près 50-50. J'ai dit Vénus, c'est 100%. Tous les autres objets, c'est 0%, sauf Mars qui a quelques nuages le soir qui se barrent le matin. C'est incroyable. C'est dû à peu près du 50-50. Aujourd'hui, il fait beau, hier, il faisait pas beau, on a l'impression que ça va, ça vient. Non, c'est strictement stationnaire. Or, on ne sait toujours pas comment ça se forme un nuage. Les gens, c'est sûrement des gens dans la salle qui ont travaillé sur cette question à poil. C'est ahurissant parce que c'est un problème très compliqué en fait. C'est une physique hors de l'état d'équilibre. On fait des petits germes de nucléation, on ne sait toujours pas sur quoi ça se nuclée. Et donc, on ne connaît pas la constante de temps du processus. Et si j'en parle, c'est pour que vous réalisiez à quel point c'est critique. Parce que dans le global change qu'on a actuellement, dans le changement climatique, la seule possibilité pour que l'augmentation du gaz carbonique qu'on produit, qui va donc augmenter la teneur en vapeur d'eau, puisque plus on chauffe, plus on évapore, puisse être contrôlée à l'échelle de ce siècle par une fraction de cette vapeur d'eau qui va ou ne pas se condenser en nuage. Puisqu'un nuage, c'est à la fois un objet à effet de serre, ça bloque le rayonnement parce que c'est fait de la même molécule d'eau que n'importe quelle forme de l'eau, mais ça a aussi cette capacité de renvoyer dans l'espace du rayonnement, donc ça refroidit aussi. Donc les nuages seront critiques pour éventuellement bloquer l'élévation de la température. Eh bien, on ne sait pas si ça va pouvoir s'opérer, parce qu'on ne connaît pas le processus qu'il y a derrière, donc on ne sait pas la constante de temps qu'il faut pour que le processus se mette en place. Tout ça pour dire que plus on va, plus on s'aperçoit que la Terre a quelque chose de réellement unique, en tout cas de très spécifique. Et donc, cette histoire de pluralité des mondes et de mondes banals, en 20 ans, a énormément changé. On en est beaucoup plus maintenant vers cette idée-là que finalement essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la Terre est arrivée là où on est aujourd'hui, comment d'une origine commune on arrive à cette diversité, comment viennent les spécificités de la Terre et d'une manière générale les spécificités planétaires. Et ce que je mets ici, on n'a pas besoin de le lire, c'est que ce qu'on fait nous dans notre métier, c'est essayer justement de comprendre ce que sont les moteurs d'évolution des planètes pour rendre compte essentiellement des diversités qu'on observe aujourd'hui et en particulier de celles de la Terre. Et comme je mets ici, c'est bien sûr une affaire de curiosité scientifique, comme toute activité scientifique, mais il y a une urgence de comprendre ça à cause du fait qu'actuellement, on a une nécessité de comprendre des phénomènes très subtils qui régulent notre propre planète. Et on est convaincu qu'une part de la compréhension vient de la compréhension de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres mondes planétaires qui, partant des mêmes conditions, vont réagir différemment. Mais il se trouve que c'est dans cette recherche-là que Mars joue un rôle très particulier. Et je le dis juste d'un mot ici, pour aller vite à nos argiles quand même, puisque c'était ça le but. C'est de dire que pourquoi Mars est tellement important et qu'il y a tellement de sondes qui vont travailler là-dessus. C'est bien sûr pour les affaires du vivant sur lesquelles je vais revenir à partir de dans deux minutes, mais c'est aussi parce que dans cette idée de l'évolution planétaire, il faut bien voir que ce qui fait le moteur de l'évolution, c'est une source d'énergie particulière. Si la Terre est active, c'est parce qu'il y a de l'énergie. Et on sait maintenant, contrairement à ce que justement Copernic, Galilée nous ont intuité à un moment donné, c'est pas le fait qu'on soit dans la gravité ou dans le champ du soleil. Le soleil est pour rien essentiellement. Bien sûr, on a besoin du soleil pour chauffer la biosphère, mais pour l'activité de la planète, le soleil ne compte pas. Ce qui compte, bien sûr, c'est les ressources d'énergie internes, et pour plus de la moitié, ces ressources d'énergie, c'est la radioactivité qui a uranium, thorium, potassium dans le manteau. Eh bien, comme ces sources d'énergie, si elles proviennent du même matériau pour toutes les planètes, elles sont par unité de volume, si vous prenez un mètre cube de Terre, un mètre cube de Lune, un mètre cube de Mars, c'est la même chose, l'énergie totale dépend du volume. Et donc, comme ça dépend du volume, plus votre objet est grand, plus il va pouvoir chauffer. Et comme l'équilibre, c'est entre ces gains qui dépendent du volume et des pertes qui dépendent de la surface, puisqu'on rayonne par la surface, plus les objets sont grands, plus ils vont être actifs. Plus ils sont de faible dimension, plus ils vont rapidement atteindre la mort géologique. Pourquoi est-ce qu'ils vont atteindre la mort géologique ? Simplement parce que comme la source d'énergie, c'est la radioactivité, et que l'énergie, par définition, vous en fabriquez en épuisant les ressources, puisque c'est la décroissance radioactive qui vous fournit l'énergie, tout objet planétaire, il monte à un certain niveau, mais il ne pourra jamais rester à un niveau constant d'activité. Ce n'est pas comme une étoile, ça ne peut que décroître. Et comme vous décroissez à partir d'un niveau d'autant plus élevé que vous êtes gros, la Terre est partie plus haut, donc elle est encore active. Il se trouve que Mars est parti juste à un point où il vient d'atteindre la mort géologique. C'est-à-dire qu'on est avec Mars en face d'une planète qui est en train de mourir, et la Lune qui est plus petite, elle est morte il y a déjà 3 milliards d'années. Et donc, la Lune n'a jamais atteint un grand niveau d'activité. Je dis, Mars est 10 fois plus massif que la Lune, et donc elle a atteint un niveau d'activité beaucoup plus grand, mais elle est 10 fois moins massive que la Terre, et donc elle n'a pas eu de remise à zéro permanente qui fait qu'elle n'a pas effacé toutes les traces. Et ce qui est génial avec Mars, c'est que Mars a eu tous les stades d'activité planétaire, on va le voir, mais elle les a gardés, elle en a gardé la mémoire. C'est-à-dire qu'à la surface de Mars, on peut lire toute l'activité d'une planète comme la Terre, sauf que sur Terre, on ne peut pas remonter dans le temps, et c'est là-dessus, bien sûr, que je vais parler maintenant, alors que Mars peut. Et donc la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est désertique. Est-ce que ça l'a toujours été? Et on sait qu'on voit des écoulements maintenant à la surface de Mars. Et la question, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas et que dans le passé, on en a eu? On voit des choses comme ça, ça ressemble vraiment à un écoulement. Alors, le pire, c'est ce genre d'images que j'ai agrandies ici, qui sont connues depuis les sondes vikings. Alors, bien sûr, si j'enlève les cratères, il y a des cratères, donc ce n'est pas terrestre. Mais si j'enlève les cratères, ça ressemble vraiment à un fleuve asséché. C'est vraiment le Canada Dry d'un fleuve, ce truc. Alors même que rien ne dit que c'est de l'eau même qui a coulé. Et il y a même quelque chose de plus intéressant, et c'est ça qui, sur lequel j'insiste un peu. Ces images-là ont été très trompeuses, parce que pendant un très long moment, on n'avait que ça pour comprendre l'histoire de la planète. Et quand vous voyez ça, c'est trivial de dire que sur Terre, si vous avez un fleuve, ça prend sa source quelque part et ça se jette quelque part. Et donc les gens se sont dit, bah, s'il y a des fleuves sur Mars, ou s'il y a eu des fleuves sur Mars, il y avait des sources et ça s'est jeté quelque part. Ça s'est jeté, c'est qu'il y a eu un océan, et s'il y a eu un océan, bah, c'est là qu'il faut aller, parce que tralala. On va revenir là-dessus. Eh bien, c'est probablement faux. C'est que sur Terre, évidemment, les fleuves participent d'un système entretenu d'évaporation des océans, recondensation, lessivage des continents, très important. S'il y avait pas de, on ne serait pas là, bien sûr, s'il n'y avait pas de continents, parce qu'il faut au moins ramener du phosphate et ce genre de choses dans les océans. Mais donc, on est dans un système entretenu. Eh bien, on va voir que sur Mars, très vraisemblablement, on ne sait pas trop ce que sont les sources de ces affaires-là, mais très vraisemblablement, ça s'est jeté nulle part. Et l'idée selon laquelle ça a nourri un océan dans lequel il aurait pu y avoir l'apparition du vivant est une idée qui a parcouru les 20 dernières années d'exploration martienne et qui s'avère actuellement pour le moment fausse et qui explique pourquoi, pour l'instant, les sondes n'ont pas été capables de mettre en évidence quelque chose. Donc c'est là-dessus que je vais insister un peu. Mais il y a énormément de structures comme ça qui font penser que des choses ont coulé. Quand vous voyez des structures comme ça, vous dites vraiment, c'est ahurissant, quoi. Vous voyez, par exemple, là, c'est quelque chose qui manifestement a l'air de partir d'un cratère et se mettre quelque part, mais on ne sait pas où. Puis il y a un tas de, à petite échelle, des choses comme ça. Et puis vous voyez, sur Terre, à gauche et à droite, on trouve des écoulements pareils. Est-ce que des écoulements de boue, de lave, etc. Mais, comme je vais le dire un peu plus tard, vraisemblablement, ça s'est passé, tous ces écoulements, à un moment où l'eau n'était plus stable, elle était liquide. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui ont mis de l'eau à la surface. L'eau a pu faire toutes ces structures, mais au bout de ces structures-là, elle était évaporée, elle s'évaporait, elle passait dans l'atmosphère, elle a été chassée ou elle percolait dans le sol. Elle n'a jamais été dans un système entretenu pérenne. Et c'est ça, les choses. Et donc, la question qui s'est posée pendant longtemps, c'est est-ce que la Terre et Mars ont eu des passés semblables? Est-ce que, puisqu'ils partent du même point et qu'aujourd'hui ils sont très différentes, au moment où ça a divergé, est-ce que la divergence des chemins d'évolution de Mars et de la Terre s'est passée avant ou après, si je puis dire, que la vie soit apparue sur Mars? Est-ce qu'il y a eu le temps de faire apparaître la vie sur Mars avant? Et c'est ça la grande question de la planète bleue dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, si vous prenez cette image-là, et dans quelques minutes je vous montrerai à quel point cette image est fausse, cette image est encore sur tous les murs de la NASA, c'est ce qu'on appelle une image d'artiste, où un artiste, donc, a mis en bleu les terrains les plus profonds, en disant, ben voilà, dans le passé, forcément, s'il y avait de l'eau, c'était là. Et c'était assez dramatique dans la mesure où toutes les sondes de la NASA sont posées dans les coins bleus ici, pour une raison qui partait d'un bon sentiment. S'il y a eu de l'eau, c'est forcément là où l'eau s'est retirée qu'on va trouver les traces du fait qu'il y avait de l'eau. Et vous allez voir qu'il y avait deux grandes idées derrière, je crois que je les ai mises là, enfin, je les ai mises indirectement ici, liées à la pression. Pour comprendre un petit peu pourquoi les gens ont postulé ça, j'ai mis ici, bien sûr, ce n'est pas l'échelle de taille, mais peu importe, trois planètes, Vénus, la Terre et donc Mars, avec les pressions atmosphériques aujourd'hui. Vénus, presque 100 fois la pression terrestre. Et c'est fait essentiellement de gaz carbonique et d'azote, avec un rapport presque 3% seulement d'azote. Si vous regardez Mars, il y a la même composition atmosphérique, 96% de CO2, 3% d'azote. Mais la pression, c'est 100 fois inférieure à la pression terrestre. Il y a un facteur 10 000 entre ça et ça. Et ce qui est incroyable, c'est que si vous pensez qu'il y avait le même réservoir initial, il n'y a pas de raison de penser que c'était différent, Mars a perdu son atmosphère d'un facteur 10 000, mais en maintenant égal le rapport de gaz carbonique à l'azote. Et ça, c'est tout à fait fondamental pour comprendre le processus par lequel Mars a perdu son atmosphère. Juste d'un mot, mais j'y reviendrai probablement. après avoir vu ce qui s'est passé pour la Terre. La Terre aussi avait probablement une atmosphère très dense au démarrage, j'en dirai un mot tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a plus 100 bars, on a 1 bar. On a perdu l'essentiel de notre atmosphère. 99% de notre atmosphère a probablement disparu, on va voir ça. Mais comment est-ce qu'elle a disparu? Elle a disparu essentiellement parce qu'on n'a plus de gaz carbonique. Et ce qui est resté, c'est l'azote. Et l'azote, de loin, domine, puisque c'est le constituant majeur, alors que c'était le constituant mineur au démarrage, et tout le gaz carbonique a disparu. Pourquoi le gaz carbonique a disparu? On le sait bien sûr, on le sait, parce que les océans ont été stables sur Terre, et quand le gaz carbonique est en présence d'eau, ça se dissout dans l'eau. La preuve, c'est qu'il y a de la badoie, et que c'est facile de mettre du gaz carbonique dans l'eau. Ça se dissout bien. Une fois que c'est dissous, ça s'ionise, ça se récupère un cation, et ça précipite sous forme d'un carbonate, le calcaire. Si vous allez dans les Alpilles ou en Champagne, vous êtes dans notre réserve de CO2 initial. Il y a quoi, 300 mètres équivalent de carbonate sur Terre. C'est quelques dizaines de barres de CO2 initial. Donc on avait bien nos quelques dizaines de barres de CO2, mais ils ont entièrement disparu. Chose incroyable d'ailleurs quand on réalise que la disparition du CO2, la transformation de CO2 en carbonate, c'est un processus d'une incroyable efficacité. C'est 99,99% du CO2 qui a disparu comme ça. Et le peu de CO2 qu'on a aujourd'hui, nos fameux 280 ppm qui sont devenus 375 bêtement, ils ne représentent jamais qu'un 100 000ème du gaz carbonique initial. Et ça, c'est l'activité interne, en particulier par la tectonique de plaques qui fait qu'une partie de nos trucs, les continents restent en surface et que ça recrame une partie du truc. On a un 100 000ème qui ressort, et ce 100 000ème, c'est juste ce qu'il faut pour que la température, au lieu d'être de moins 18, elle soit à plus 13 degrés, en moyenne, ce qui est quand même assez fort. Et donc, sur la même idée, les gens se sont dit... Ben, si ça a disparu comme ça ici, ben, sur Mars aussi. S'il n'y a pas de gaz carbonique à la surface de Mars, à la même proportion ici, c'est que le gaz carbonique a disparu. Donc il est sous forme de carbonate. Et si on trouve des carbonates, eh bien, ça voudra dire qu'il y avait des océans par le même processus. Donc si on trouve aujourd'hui du carbonate à la surface de Mars, on saura où il y avait des océans. Et de même que c'est en Champagne qu'on trouve des beaux fossiles ou dans les Alpilles, eh bien, on trouvera aussi des fossiles. Et les Vikings et les Pathfinder et tout ça, ils sont plantés dans les endroits bleus de la carte de tout à l'heure pour cette raison. Le résultat, comme vous le savez, c'est qu'il n'y a pas un poil de carbonate à la surface de Mars. Et la raison, sur laquelle je vous reviendrai dans quelques minutes, mais on peut déjà le dire, c'est qu'en fait, Mars n'a pas perdu son atmosphère par précipitation dans l'eau. L'eau n'a rien à voir avec ça. Et c'est ça qui explique que ce rapport-là est resté constant. Parce que vous voyez, le gaz carbonique, facilement sur Terre, peut être transformé en carbonate, mais l'azote reste dans l'atmosphère. Parce qu'autant c'est facile de transformer le gaz carbonique en caillasse, autant c'est impossible de transformer l'azote en caillasse. Pour faire un nitrate, il faut passer par l'acide nitrique, ou par les fameuses pluies acides, ou par le vivant. Et donc il y a sûrement plus de vivant sur Terre que sur Mars, donc c'était impossible de penser que, en plus, les deux disparaissent avec exactement la même efficacité, pour donner à la finale le même truc. Forcément, les deux ont disparu par un processus qui ne fait pas intervenir l'eau. Et comme on va le voir, ce dont on est convaincu, c'est que Mars a perdu son atmosphère par un échappement. L'atmosphère a quitté Mars très tôt dans son histoire. Et c'est ça qui fait que Mars et la Terre ont eu des destins très différents. Et donc, comment est-ce qu'on peut remonter à l'histoire? Et c'est ça que je vais dire maintenant rapidement. Jusqu'à il y a très peu de temps, c'était essentiellement par les images ou par les relevés topographiques. Et la NASA a fait des sondes absolument extraordinaires, dont une qui s'est terminée il y a très peu de temps, il y a 3-4 ans, où il y avait, qui s'appelle MGS, Mars Global Surveyor, qui à la surface avait un altimètre qui s'appelle MOLA, qui simplement en mesurant le temps d'aller-retour du signal, quand on est à l'orbite, on sait où le signal est revenu, et donc on peut faire de l'altimétrie comme ça. Et les couleurs ici, qui sont un peu biaisées bien sûr, ils ont mis en bleu ce qu'il y a de plus profond et en rouge ce qu'il y a de plus haut, montrent déjà tout un tas de structures à la surface de Mars. Vous voyez d'abord, la première chose que l'on voit, que j'ai marqué ici, c'est qu'il y a du bleu en haut et tout le reste, il y a une grande dichotomie dans l'altimétrie. Si j'oublie les grands bassins comme ça, qui sont des impacts qu'il y a eu, vous voyez que le nord est beaucoup plus profond que le sud. Il y a plus de 10 km d'écart. C'est ce qu'on appelle la dichotomie martienne. J'en dirai un mot un peu plus tard. Et il y a bien sûr plein de structures qui ont été... En particulier, à ces terrains cratérisés, je fais une image ici, agrandie. Je prétends que si je vous donne cette image sans légende, vous n'avez pas de moyen de savoir que c'est du Mars, de la Lune, du Mercure ou du Callisto ou d'un astéroïde. Il faut voir que ça, ce genre de structure-là, est tout à fait importante. Ça traduit un phénomène qui a été général dans le système solaire et qui a, pour une très grande part, conditionné l'ensemble de l'évolution des planètes, y compris de la Terre. Si on avait fait une photo de la Terre il y a 4 milliards d'années, la Terre était comme ça il y a 4 milliards d'années. Ce qui différencie la Terre et les autres objets, ce n'est pas que certains ont été bombardés et d'autres pas, tous ont été bombardés. C'est que certains ont perdu la mémoire de ce bombardement et d'autres pas. Ce qui a changé sur la Terre, c'est ce qui s'est passé après le bombardement. Excusez-moi. Et donc, il se trouve que sur Mars, sur la Lune, il y a 80% des terrains qui ont encore ça. Sur Mars, il y a 50% de la surface qui est encore comme ça. Donc sur Mars, il y a 50% des terrains qui, du point de vue de leur structure, datent des premiers moments. Et on va voir dans un moment que ce n'est pas uniquement les premiers moments, c'est ce qu'on appelle le bombardement primordial. Et puis, il y a des grands volcans à la surface de Mars, ces grands volcans-là, mais ils sont sur un domaine qu'on appelle Tarsis, qui lui-même est un énorme édifice volcanique, un grand dôme, qui a été fait comme ça très tôt dans l'histoire, en même temps que le remplissage de toutes ces plaines par de la lave. Tout ça, c'est de la lave, tout ça, c'est de la lave. Et en plus, il y a quelques volcans dessus. Mais vous verrez, ça a beaucoup d'importance, le fait qu'il y ait eu une énorme éruption volcanique qui a donné tout ce dôme-là, qui fait quand même 5000 km de large et 15 km d'épaisseur ici, et le remplissage de cette lave. Et puis, ça, c'est le plus grand des volcans, il s'appelle le Mont Olympe. Pour vous donner une idée, ça, c'est une photo, ça, c'est la France. Hein, ça, c'est des volcans, quand on dit qu'ils sont grands, ils sont grands, parce qu'ils recouvriraient la France. Donc, c'est des volcans boucliers, comme il y en a très près d'ici. Qui sont très, très proches des volcans boucliers de type Hawaï. Simplement, comme il n'y a pas de ligne de plaques, ils sont pliés les uns sur les autres, et ça qui fait qu'ils sont très hauts, tout simplement. Et puis, il y a des grands canyons, comme disent les Américains, ce que je n'aime pas, parce qu'une gorge sur Terre, c'est un terrain meuble qui est lessivé par de la flotte. Ça, ce n'est pas le cas. Les gorges martiennes, ce n'est pas de l'eau qui a coulé, qui a raviné. S'il y a de l'eau qui a coulé, bien sûr, ensuite, elle a emprunté ses chenaux. Mais ce sont des failles qui se sont formées, parce que quand Tarsis, ici, s'est formé, ça a tellement appuyé sur la croûte que ça a fait une énorme faille. Mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui, il y a de belles images. Mais ça... Et puis, il y a donc ces fameux cours d'eau. Et j'insiste ici, ça je vous mets, qu'un cours d'eau ne veut pas forcément dire que ça a alimenté des structures pérennes et que ça signe un processus entretenu. Mais ce que je mets ici, c'est qu'une image seule ne peut pas répondre à cette question. Quand vous voyez ça, vous ne savez pas si l'eau était stable ou pas au moment où elle a coulé. Alors, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, depuis maintenant, depuis 2003, avec Mars Express et ensuite avec l'autre mission, on a mis à la surface des instruments qui non seulement font des images, mais qui sur chaque point d'image peut voir la composition. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais il se trouve qu'on a acquis en France d'abord et ensuite dans d'autres pays la capacité de fabriquer ce genre de choses. Et ça, c'est très important. Quand vous voyez une glace, c'est brillant, c'est blanc. Mais quand vous voyez de la glace blanche, vous ne savez pas si c'est de la glace d'eau, de gaz carbonique ou de méthane, c'est toujours blanc. Le visible, ce à quoi votre œil est sensible, ne donne pas la composition. Dès que vous faites la même chose, mais dans un autre domaine de longueur d'onde, dans l'infrarouge, tout d'un coup, les glaces ont des couleurs différentes, des couleurs infrarouges différentes. Et c'est ça qu'on a fabriqué. C'est des instruments qui travaillent dans l'infrarouge et qui donnent des couleurs qui permettent, à chaque couleur correspond une composition. Et ça, c'est vrai pour la glace, comme c'est vrai pour les minéraux. La plupart des minéraux sont gris, c'est très difficile à vue d'œil comme ça, sauf quelques experts, de reconnaître une caillasse. Dans l'infrarouge, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pareil pour l'atmosphère. L'atmosphère est transparente pour l'essentiel en infrarouge. Vous pouvez savoir si vous avez du N2, du CO2, etc. En infrarouge, vous voyez les signatures. Donc, ça a tout changé parce qu'à partir du moment où vous voyez un constituant, j'en ai parlé pour les carbonates tout à l'heure, si vous voyez un carbonate, ça raconte une histoire. C'est-à-dire que le CO2 a été dissous, que l'eau est partie, qu'il y avait la mer, etc. Chaque minéral raconte une histoire. Et donc, à partir du moment où vous avez accès à des minéraux, vous avez accès à une histoire. Et c'est ça qu'on a fait avec cette sonde Mars Express. Par exemple, je vais donner un exemple ou deux juste pour arriver à la fin bientôt quand même. Le bombardement. Je vais montrer cette image tout à l'heure. La question, c'est quelle est la composition de ces terrains-là? On voit qu'il y a des structures, mais est-ce que les terrains ont été altérés? Supposons que vous allez vous poser là-dessus, quelle va être la composition est-ce que la composition est toujours celle qu'il y avait il y a 4,5 milliards d'années ou est-ce qu'elle a changé au cours du temps? On a fait justement avec notre appareil une mesure de ça. Donc vous voyez les terrains caractérisés, c'est ceux-là, c'est tous ceux qui sont en couleur ici. Et là, vous avez une carte que je représente ici en grand. Donc ça, c'est tous les terrains caractérisés du sud. Et les couleurs correspondent à une roche particulière qui est dans les magmas volcaniques qu'on appelle les pyroxènes. Pour aller vite, on a montré que toute cette croûte initiale a gardé la composition qu'elle avait au démarrage. Elle n'a pas du tout été altérée, ce qui est tout à fait remarquable. Mais bien sûr, vous avez tous ces terrains qui sont noirs maintenant ici. Or, ces terrains noirs, c'est aussi de la lave, je vous ai dit, qui est rentrée un petit peu plus tard, parce qu'il n'y a pas du tout de cratère. Comme il n'y a pas de cratère, cette lave est arrivée après le grand bombardement, il y a 3,5 à 4 milliards d'années. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la signature? Eh bien, quand on compare, c'est un matériau qui a été altéré, c'est-à-dire que lui, pour le coup, sa composition a changé au cours du temps, et quand on regarde à quoi ça correspond, ce qui est noir ici, c'est ce qui est rouge ici. Et donc, ce qui est rouge à la surface de Mars, c'est précisément ces terrains volcaniques qui ont vu leur composition changer. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est bien de la rouille? Et donc, on a fait ici une carte où, en couleur maintenant, vous avez l'ensemble des terrains où on trouve un oxyde particulier, un oxyde de fer particulier qu'on appelle l'hématite, qui est Fe2O3. Et puis même à l'intérieur de ça, ce qu'on appelle du nanophase, alpha Fe2O3, peu importe. Donc ça, effectivement, on voit qu'il y a une corrélation de 1 pour 1 entre ces terrains rouges ici et ça. Ça qui est tout sombre ici, c'est ce qui est sombre ici. Et donc, effectivement, il y a une anticorrélation entre la croûte ici, qui est riche de ce magma non altéré, que vous voyez ici, et puis cette rouille ici. Donc, effectivement, à la question, et on le voit bien ici à la surface, vous voyez que ce trou ici, là, avec cette graine, c'est ce trou ici, là. Donc, effectivement, on a une bonne corrélation entre le fait que ce qui est rouge sur Mars, c'est bien de la rouille. Donc, la question de tout à l'heure, la première, si Mars est rouge, c'est que ça a été rouillé, la réponse est effectivement oui. Et donc, la deuxième, c'est est-ce que c'est bien l'eau qui a rouillé Mars ? Et c'est là qu'on a apporté quelque chose, parce qu'il se trouve que dans l'infrarouge, si vous avez de l'eau, ou même OH, sous quelque forme que ce soit, vous ne pouvez pas le cacher. Parce que l'infrarouge est extraordinairement sensible à l'eau sous toutes ses formes. Vapeur, glace, hydratation dans une roche, n'importe quoi. Et donc, on a fait des cartes comme ça de tous les endroits où on voit de l'eau sous une forme ou une autre. Alors, bien sûr, il y a les pôles qu'on a virés. Et là, vous avez toutes les roches hydratées à la surface. Il y a maintenant des milliers, à peu près un millier de spots, mais ils sont tous dans la croûte. Et en particulier, vous voyez que tous ces terrains sombres ici, y compris Tarsis qui était tout rouge, partout où c'est rouge, il n'y a pas un poil de flotte. Or, si c'est l'eau qui avait rouillé, on aurait des minéraux, comme de la goethite, non pas de l'hématite, où il y aurait un poil de OH dedans. On a pu montrer qu'il n'y en a pas du tout. Et donc, les oxydes ferriques sont des oxydes parfaitement tannides. Donc, ce n'est pas l'eau qui était responsable du fait que Mars est rouge. En fait, on a compris que le processus d'interaction, c'est avec de l'atmosphère. L'atmosphère a un tout petit peu de vapeur d'eau, très peu. Je vous ai montré que quand ça condense, ça fait quelques microns de glace. Mais une partie de cette eau, comme l'atmosphère est très ténue, est oxydée sous forme d'H2O2, donc c'est de la vapeur d'eau oxygénée, qui interagit avec le sol, mais cette interaction est tellement faible qu'il faut des milliards d'années pour n'attaquer que quelques dizaines de microns. Donc c'est une pellicule extrêmement superficielle. Et c'est ça qui explique pourquoi vous voyez les traces des rovers comme ça, parce que dès qu'ils balayent un petit peu, ils remuent un peu, ils bêchent la surface, et bien vous voyez le matériau d'en dessous qui tout simplement est resté tout sombre, partout pareil. Et vous avez moins d'un millimètre à retourner pour être dans le matériau d'origine. C'est une pellicule très, très superficielle. Voilà. Mais, et c'est là, bien sûr, qu'on arrive enfin à nos argiles, c'est qu'en faisant cela, on s'est aperçu que là où il y a eu de l'eau, c'est justement pas là où les gens le pensent, c'est pas dans ces terrains-là, parce que s'il y avait eu de l'eau sur cette rouille, on le verrait maintenant. On peut même démontrer que c'est les seuls endroits où il n'y a jamais eu de flotte à la surface de Mars. Depuis, en tout cas, qu'ils ont été recouverts de ces terrains basaltiques qui ont été oxydés sous forme de rouille. Il n'y a plus d'eau à la surface. Donc, ce n'est pas là qu'on va trouver la trace d'un océan. C'est idiot de penser qu'il y avait un océan. En revanche, tous ces spots-là, ce sont des terrains très anciens, parce qu'ils sont dans la croûte, dans lesquels il y a des minéraux hydratés. Et il se trouve qu'il y a deux grandes familles, mais il y en a une qu'il n'y a pas, c'est les carbonates. À nouveau, je ne vais pas être long là-dessus, je vous ai déjà dit pourquoi les gens cherchaient des carbonates. Le fait qu'on n'en trouve pas dit quelque chose de très particulier. C'est que Mars a effectivement perdu son atmosphère, pas par précipitation dans de l'eau. Et ça, à nouveau, c'est en accord avec le fait que ça a aussi perdu l'azote. Mais probablement, je vais vous le dire, par un tout autre processus. Donc, pas de champ de carbonate et ses corps. Mais en revanche, il y a deux grandes familles de roches qu'on a trouvées. Des sulfates et des argiles, qui font partie d'une famille plus grande qu'on appelle les phyllosilicates. Il y a du sulfate, en particulier du plâtre, il y a du gypse un peu partout. J'ai tort de dire un peu partout, parce qu'en fait, les sulfates et les argiles sont dans des endroits très différents. Les argiles, on les trouve partout dans la croûte ici. Les sulfates, essentiellement tout près de Tarsis. Et je vous dirai, si j'ai le temps, pourquoi on les trouve là. Mais la chose importante, c'est que les différents minéraux, à nouveau, pour se former, ils ont besoin d'environnements très différents. Et le type d'argile et le type de sulfate qu'on trouve montrent que, comme ils se trouvent dans des sites différents, ces sites ont été formés à des moments différents, dans des environnements différents. Et les roches que l'on a nous disent quel environnement on avait à un moment donné. Et pour aller au plus ancien, les argiles, ces phyllosilicates, ont été formés très tôt dans l'histoire, c'est là-dessus que je vais revenir, et ils signent probablement, de la manière la plus parfaite, le moment où, à la surface de Mars, il a pu y avoir de l'eau. Parce que pour faire une argile, et d'autres ici le diront mieux que moi, il faut faire barboter longtemps, et si possible dans de l'eau chaude, de la caillasse, des roches volcaniques. Vous ne faites pas ça uniquement avec de l'eau qui dévale une pente. Il faut avoir le temps il faut au moins des processus entretenus à l'échelle, je ne dis pas forcément du milliard d'années, mais en tout cas certainement du millier, voire du million d'années. Les argiles sont à ce jour la seule preuve que l'on ait qu'il y a eu des terrains qui ont vu de l'eau sur une période suffisamment étendue pour qu'il y ait au moins cette altération-là. Les sulfates, comme on va le voir, ne le disent pas parce que les sulfates, c'est un sel. Et au contraire, pour former le sel, vous avez intérêt à accélérer l'évaporation. Si vous envoyez quelque chose, vous le faites évaporer, vous allez laisser un dépôt. Ce dépôt peut être justement du sulfate. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, on a pu montrer que les sulfates, on les trouve dans des terrains plus jeunes que les terrains avec les argiles, et vraisemblablement, comme vous allez le voir, à un moment où l'atmosphère avait déjà quitté cette planète. Et il y a un endroit simplement que je vais prendre pour vous montrer ça, qui s'appelle Mars Vallis. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de cet endroit-là. Il y a la surface de Mars, donc ça c'est le Valle Marineris que vous voyez tout à l'heure. Vous voyez, il y a des grandes structures comme ça qui se baladent. On appelle ça des vallées de débâcle, les gens qui sont formés assez tard dans l'histoire de la planète, il y a 3,5 milliards d'années. Donc tard par rapport aux phases dont on parle maintenant. Et vous voyez, on a vraiment l'impression qu'il y a eu des mouvements comme ça entretenus qui ont alimenté un grand océan. On comprend pourquoi, à partir des images, les gens ont pu imaginer ça. Et d'ailleurs, il y a voilà, le nom Ares Vallis, pour ceux qui sont un petit peu dans la science martienne. C'est intéressant, Ares Vallis, parce que c'est là que, quand les Américains, 20 ans après Viking, ont voulu retourner sur Mars, en fabriquant un petit engin qu'ils ont appelé Pathfinder, pour tester un nouveau mode pour se poser avec les fameuses airbags, bah c'est là qu'ils ont décidé d'aller. Et vous voyez pourquoi ? Parce que là, on a vraiment l'impression qu'on est au débouché de ce truc et que s'il y a vraiment un endroit où on va trouver des roches sédimentaires et si possible des fossiles, c'est là qu'il faut aller. Donc, ils l'ont envoyé là, le petit engin. Et vous voyez une image agrandie. On se trompe souvent sur la taille. Ce truc-là, c'est de la taille de mon ordinateur. Hein, c'est 30 cm. Mais bon, l'image est faite de telle sorte qu'on pense que c'est... Non, ça, c'est un tout petit caillou, en fait. Mais bon, voilà, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, cette histoire. Il l'a envoyé en 96. C'est un tout petit engin. Et vraiment, il l'a envoyé pour tester ces fameux airbags que vous voyez là. Et c'était très spectaculaire pour ceux qui étaient nés à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était incroyable. C'était la première fois qu'il y a eu autant... qu'il y a eu des connexions, tout simplement, sur un site de la NASA. Il y a eu 1 million de connexions le 4 juillet, quand ils sont posés. Enfin, un truc incroyable, 97. C'était tout à fait spectaculaire. Mais c'est un tout petit engin sur lequel ils avaient prévu de mettre que des caméras. La caméra qui fait la photo depuis là, et puis une petite caméra dessus. Puis ils se sont dit, c'est quand même idiot de ne pas avoir d'instrument de mesure. Ils n'en avaient pas préparé, donc ils nous ont demandé, en fait, un petit instrument qu'on leur a donné, qui est un petit analyseur par spectro X. Mais c'est quand même grand comme ça, un petit analyseur X, et qu'on avait fait pour une mission soviétique de l'époque. Donc il y avait des modèles de rechange. Mais il n'y avait plus la possibilité de le mettre du même côté que la caméra. C'est pour ça que vous voyez ces trucs-là comme ça, parce que l'engin, il allait faire une photo, puis il allait là, il fait demi-tour, et puis il revenait à marche arrière pour faire la photo X du truc. C'est pour ça que vous voyez toujours ces ronds pour aller analyser les. Mais la chose importante, c'est que grâce à ce petit appareil, qui provient d'Europe, donc, il a été fait en Allemagne, à vrai dire, on a pu montrer qu'il n'y a pas la moindre caillasse sédimentaire. C'est que de la roche volcanique. Et c'est ça qui était quand même incroyable. Vous vous posez dans un endroit où vous avez l'impression que la flotte est arrivée en permanence, qu'il y a une énorme vallée de débâcle et tout, il n'y a pas la moindre droplette de flotte. Rien. Alors on s'est dit, là il se trouve que c'est recouvert de poussière maintenant, on ne peut pas faire de mesure, mais il y en a une à côté qui s'appelle Mars Vallis, qui est pareil. Vallis, pareil, c'est un écoulement comme ça très fort. Et là, c'est une image qui a été faite par la caméra haute résolution de Mars Express, où bien sûr, ils ont mis du bleu ici, on se demande pourquoi, parce que vraiment, c'est comme s'il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour alimenter un océan. Et nous, avec notre instrument, on a fait la même carte, avec le même code de couleur, on a mis en bleu là où on a trouvé de l'eau, vous voyez. Et donc, il n'y a pas un poil de flotte là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui a coulé, mais on prétend qu'elle n'y est jamais restée. Que ça a été non pas un phénomène entretenu, mais un truc sporadique. Il a pu y avoir comme une inondation. Si vous voulez, un jour, vous avez ça, mais après, il n'y a plus rien. En revanche, vous voyez qu'il y a plein d'endroits comme ça où on a mis en blanc ici, qui sont des dépôts. Alors c'est très très cratérisé, vous voyez tous les cratères qu'il y a ici, c'est vraiment de la croûte très très vieille ici. Et on s'est aperçu que dans tous ces endroits-là, blancs, c'est là qu'il y a des terrains riches de minéraux hydratés. Nos fameuses argiles, c'est là qu'on les trouve. Il n'y a pas un poil d'argile en bas, sauf là où ça a dévalé la pente parce qu'il y a par l'érosion, mais c'est dans ces terrains-là. Donc si on fait ici ce que j'explique là, une image 3D, vous voyez qu'en fait, si vous vous posez ici, vous avez zéro chance de trouver un truc hydraté. Mais en revanche, si vous aviez été là, ben vous auriez tout trouvé. Parce que là, c'est un terrain plus ancien qui était formé avant qu'il y ait cette eau qui déboule ici et qui fasse ces structures-là, et qui, par son érosion, a mis à nu des terrains préalables dans lesquels il a pu y avoir éventuellement une hydratation à une époque très antérieure où l'eau était stable à la surface de Mars. Donc vous voyez, c'est un peu tricky ce truc-là. C'est-à-dire que si vous voulez trouver de l'eau, il ne faut surtout pas aller là où les images vous dites qu'il aurait dû y avoir de l'eau. Donc ils sont... Et c'est là qu'on voudrait aller un jour, et si possible plusieurs fois, comme vous voyez ici. Et donc, les terrains blancs ici, c'est là qu'on a vu nos fameuses argiles, et c'est là qu'on voudrait, vous allez voir qu'il va y en avoir un, qui va y aller, et probablement dans Mars Vallis, pour ça je vous ai montré ça, vous vous souviendrez du nom, dès novembre de cette année. Alors, il y a une chose qui est rigolote maintenant, je vous ai dit au début que cette croûte, quand on ne fait pas attention à tout ça, on lui trouve sa composition magmatique d'origine. Et pourtant, c'est dans la croûte qu'on trouve des tout petits points, comme ça, où il y a malgré tout une trace d'altération par de l'eau. Comment est-ce que les deux sont compatibles ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'eau et que pourtant, et je vous dis qu'il y a eu de l'eau partout, et pourtant on ne la voit pas à la surface ? Alors c'est là-dessus que maintenant je vais aller. Voilà l'histoire qu'on raconte à partir de trois types de minéraux qu'on a vus. Vous voyez qu'il y a des argiles, des sulfates et des oxydes ferriques anhydres, pas de champ de carbonate, et que tous disent des moments différents de l'histoire et des processus distincts. Et en fait, on va... du plus ancien ici au plus récent. Ça se fabrique encore maintenant, je vous ai dit, c'est très lent. Et donc, comment est-ce qu'on reconstitue l'histoire ? Donc, vous avez ce qui se passe aujourd'hui à droite et l'origine du monde, si on peut dire, ici à gauche. Et là, j'ai longtemps... Toute cette phase, c'est ce qu'on appelle le bombardement massif. Et là, j'ai mis des âges un petit peu pour ceux qui veulent regarder le temps. Donc, si je compte l'âge T égale 0 aujourd'hui, ça, c'est à peu près il y a 4,55 milliards d'années. Et ça, c'est à peu près 3,8 milliards d'années. La fin. Cette phase de bombardement, c'était plus d'un demi-milliard d'années. C'est très important, ce truc-là. Et je vais revenir un petit peu là-dessus parce que si je, là, c'est la seule courbe que je montrerai aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très compliqué. C'est le taux d'impact au cours du temps. Comment on a d'impact ? Le bombardement, c'est des impacts. En fait, je vous dis que tout ça, c'est du bombardement. Mais il ne faut pas penser que ça était constant comme ça, puis que ça a chuté d'un coup. Il y a eu une première phase, et puis c'est arrivé à un taux assez faible. Et puis, il y a une deuxième phase ici. Si j'ai le temps après, je vous raconterai pourquoi c'est ça, parce que l'histoire est vraiment très drôle. Mais pour l'instant, on ne va pas expliquer ça. On va juste parler de cette évolution comme ça. Donc, voilà comment, au cours du temps, le taux d'impact dans le système solaire a changé, a varié. Il y a deux grandes phases comme ça. Et la première, c'est une phase qui est à la fois une phase d'accrétion et de bombardement. Les planètes, comment elles ont grossi ? Comment est-ce que la Terre a grossi ? Ben, par accrétion de petits grains. Mais accrétion de petits grains veut dire qu'il y a des petits grains qui sont rencontrés. Et si pendant ce choc, la vitesse est faible, ben, ça grossit. Si elle est grande, cette vitesse, ben, ça se casse. Et donc, destruction et accrétion, c'est le même phénomène, en fait. Donc, pour ça que je mets bombardement et accrétion, c'est la même chose. Et puis pourquoi ça chute au bout d'un moment, ce moment-là étant quand même quelques dizaines de millions d'années ? Ben parce qu'au bout d'un moment, ben tout le monde est rentré en collision, et là, on n'a plus rien. Et vous verrez que ça, c'est parce qu'il y a des objets qui viennent de beaucoup plus loin, qui sont arrivés dans le système solaire interne. Et donc, on a une première phase comme ça. Et à la fin de cette phase, il y avait dans le système solaire interne, près de notre planète, non pas quelques planètes, mais quelques dizaines d'objets, qu'on appelle des embryons, qui avaient des tailles de planètes déjà, et qui ont eu énormément de chocs les uns sur les autres. Et en se choquant, la taille de ces impacts était telle, c'est ce qu'on appelle des impacts géants. Et on sait que sur Terre, il y a eu un impact comme ça, que la Terre, on le sait maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, enfin on le pense en tout cas, donc quelque chose comme, on va dire, une vingtaine ou trentaine de millions d'années après que la Terre se soit formée, la Terre a reçu la visite à vive allure d'un objet de la taille de Mars à peu près aujourd'hui. Si le choc avait été frontal, les deux auraient disparu, on ne serait pas là aujourd'hui. Si le choc avait été rasant, les débris auraient quitté l'environnement de la Terre, et on ne serait pas là non plus, vous allez voir. Parce que la géométrie d'impact a été telle que l'impacteur, ce qui nous arrivait dedans, a été entièrement volatilisé. L'impacté, la Terre, la proto-Terre, a été entièrement chauffée à plus de 10 000 degrés, donc entièrement mise en fusion, jusqu'au cœur. Le noyau de l'impacteur est d'ailleurs tombé dans le noyau de la Terre, il s'est fusionné avec. Et l'ensemble de ce qui nous est tombé dedans, plus un grand morceau du manteau, a été éjecté de la Terre, et a fait un grand disque de matière autour. Et c'est dans ce grand disque de matière qu'en refroidissant, la Lune s'est formée. La Lune procède du refroidissement de ce grand disque de matière, avec à nouveau une géométrie très particulière. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il faut voir que c'est un phénomène très peu probable, bien sûr, en termes de probabilité, de choc, mais c'est un phénomène qui a eu énormément d'importance, parce que la Lune, pour l'évolution de la Terre, a été absolument fondamentale. Pour un tas de raisons, on n'a d'ailleurs pas été au bout actuellement, on n'a pas envisagé toutes les conséquences. Je vais en dire un ou deux pour que vous réalisiez à quel point c'est important. Bien sûr, on le sait, c'est le plus peut-être frappant, parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Lascar, du Bureau des Longitudes à Paris, qui a sorti ça fait bientôt une vingtaine d'années. Il a montré que, vous savez que la Terre tourne autour d'elle-même autour d'un axe, le fameux axe de 23 degrés, ce qu'on appelle l'obliquité, et que cet axe-là, pour l'essentiel, il reste bien sûr constant comme ça dans une rotation annuelle, mais que la Terre voit cet axe-là qui tourne sur lui-même comme une toupie en maintenant l'angle au centre commun, 23 degrés, avec une période de 26 000 ans, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, ce qui veut dire que, compte tenu du fait que la Terre n'est pas sur une orbite circulaire mais un peu elliptique, il y a des moments où on est plus près du Soleil, des moments où on est le plus loin. Actuellement, la configuration, c'est qu'on est le plus près du Soleil le 3 janvier, et on est le plus loin le 3 juillet. Et donc, c'est l'hiver de l'hémisphère nord qu'on est le plus près du Soleil, donc on reçoit le plus d'énergie. Et c'est l'été de l'hémisphère nord qu'on est le plus loin, donc on reçoit le moins d'énergie. Donc la configuration actuelle, elle tempère les écarts été-hiver. Et comme il y a plus de continents dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, bien sûr, ça joue sur la température moyenne du globe actuellement. Mais donc, avec une période de 26 000 ans, donc il y a 12 000 ans, c'était l'inverse. Et donc on sait que le Sahara était ouvert et que les écarts en température étaient bien sûr supérieurs. Ils ne sont pas considérablement supérieurs. Les écarts en température, c'est ça l'origine des glaciations, les fameuses glaciations, c'est 5 degrés. 5 degrés, c'est suffisant pour fabriquer des changements du niveau de la mer importants, puisque vous savez que c'est lors de la dernière glaciation que l'étroit de Bering était à sec et que le peuplement du continent américain s'est fait par en venant d'Asie comme ça. Donc c'est des grands changements climatiques. Mais comme ils se font sur la durée, il y a le temps de l'adaptation. Bien sûr, c'est important parce que cet écart en température de quelques degrés est de l'ordre de grandeur de ce que l'homme est en train de fabriquer maintenant, sauf que ce n'est plus à l'échelle du millénaire, mais de la décennie. Et que la grande question est de savoir est-ce que le système va pouvoir, vu que la constante de temps est brève, s'adapter précisément. Mais donc, cet angle-là est constant, de 23 degrés, et on tourne autour de ça. Mais bien sûr, il n'a aucune raison d'être constant, cet angle de 23 degrés, parce que tous les mouvements, on le sait bien maintenant, sont d'ordre chaotique, et il n'y a rien qui impose cet angle de 23 degrés. C'est cette phase-là qui, après toutes ces choses-là, ont donné des axes de rotation comme ça, mais cet angle de 23 degrés a toutes les raisons de se mettre à osciller aussi. Et on voit bien que si, rien qu'en tournant sur soi-même, on a 5 degrés d'écart, si en plus cet axe-là, il va vers l'axe du soleil, si le pôle se met à viser vers le soleil, on imagine des changements climatiques qui seraient plus importants. Eh bien, si le climat terrestre est stable depuis 4,5 milliards d'années, c'est parce que la Lune a stabilisé cet angle à 23 degrés à 1,5 degré près. Le processus est d'ailleurs assez complexe, ce n'est pas un truc simple, on ne démontre pas par une règle de 3 ce truc-là, mais c'est tout à fait fondamental. Eh bien, le système Terre-Lune est le seul système que l'on connaisse à avoir ça, c'est-à-dire à avoir une planète dont la masse relative, un satellite, je veux dire, dont la masse relative à la planète fait que c'est quasiment un système double, même s'il y a un rapport important de masse entre les deux. La masse de la Lune est suffisante pour avoir des effets gravitationnels importants. Mais il y a plein d'autres effets de la Lune, donc la conservation du climat comme ça est important. Mais il y a d'autres effets très importants. Il ne faut pas oublier que lorsque la Terre s'est formée ici, donc à peu près à la distance où elle est toujours, elle n'a pas tellement migré, elle, depuis le début, on était suffisamment près du Soleil pour que l'eau soit à l'état vapeur. Il n'y avait pas de glace d'eau dans notre environnement. Et donc la matière solide à partir duquel la Terre, mais aussi Vénus, Mars, la Lune, donc par conséquence, s'est formée, c'est un matériau qui était essentiellement anhydre. Il n'y avait pas de flotte, tout simplement, parce que l'eau, sous forme de vapeur, était très peu piégée dans les roches. Et c'est beaucoup plus loin, au-delà de 3 unités astronomiques, que la glace était présente. Et donc, c'est de la glace qui a constitué les objets plus loin, à partir duquel les cœurs des planètes géantes se sont formés. Et donc, nous, on était un matériau très anhydre. D'où vient notre flotte et d'où vient toute l'eau que l'on boit aujourd'hui? Du fait que dans cette phase-là, eh bien, on a eu des chocs par beaucoup d'objets qui sont formés suffisamment loin pour eux, justement, avoir piégé de la glace. Comètes et astéroïdes. Là-dedans, il y a forcément au moins un verre de comète là-dedans. Mais que l'eau soit cométaire ou pas, ça ne change rien, parce que c'est toujours H2O, quelque part. La chose, en revanche, plus importante, qui n'est pas ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on a montré, depuis 1986, le survol de la comète de Halley. Manip incroyable, on peut en parler si ça vous amuse un petit peu après. La comète de Halley, c'est un objet qui est fait à 80% de glace d'eau. Et donc, quand on a été la voir en 86, la première manip que j'ai jamais faite dans l'espace, vous allez voir un objet qui est fait de 80% de glace d'eau, vous attendez à avoir un objet blanc. Vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc et on sait pourquoi. Eh bien, il se trouve que la comète de Halley, elle est plus noire que ça. Elle est plus noire que ça, c'est l'objet le plus sombre du système solaire. L'albédo, c'est 3%. Et pourtant, c'est fait de 80% de glace de flotte. Et ça, c'est un résultat qui est passé d'ailleurs relativement inaperçu, que c'est peut-être un des plus fondamentaux qu'on a trouvé récemment par le spatial. La réponse, juste en un mot, c'est que l'essentiel du carbone dans une comète, ce n'est pas des petits composés moléculaires, CO2 ou CH4, ce sont des macromolécules réfractaires, très équivalentes à ce que vous avez sur un brûleur de cuisinière. À force de mettre de la graisse dessus, si le fameux cracking des chimistes, où vous virez de l'hydrogène et que vous polymérisez, vous avez des trucs très sombres, très réfractaires, vous savez bien que ça se dissout pas, il faut frotter pour nettoyer votre brûleur. Eh bien, c'est ça dont est fait dans la matière primordiale du système solaire. C'est-à-dire que l'effondrement du nuage qui a donné naissance aux comètes, enfin, donc à l'ensemble du système solaire, est passé à la fin de son effondrement par une phase d'évolution chimique qui a donné naissance à ces macromolécules qui ont été piégées dans les comètes. Et pourquoi c'est important? C'est qu'on est convaincu que l'apport de l'eau ici a apporté l'eau plus, s'agissant des comètes, cette matière carbonée très particulière. Et on a à peu près convaincu que c'est cette matière carbonée qui est à l'origine du passage de l'organique au vivant, parce qu'il y a à l'intérieur de ça des molécules qu'on n'arrive pas à simuler, parce que c'est une chimie très particulière, la chimie de l'effondrement d'un nuage moléculaire, mais qui ont cette capacité. Et toute la mission Rosetta qu'on a mis sur pied, comme on n'a pas été capable de rapporter un morceau de glace, on a envoyé un laboratoire qui est en l'air actuellement et qui va se poser dans 3 ans maintenant et demi pour essayer d'avoir accès à la composition de cette chose-là. Tout ça pour dire qu'il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Mais la glace qui est arrivée ici, elle a été victime, comme tout le monde, de cet impact géant. Et avec cet impact géant, si vous mettez tout à 10 000 degrés, vous évacuez toute votre atmosphère. Et une grande partie de notre atmosphère a été éjectée dans l'espace. Sinon, on n'aurait jamais rien eu après, parce qu'on serait comme Vénus avec 100 bars. Et avec 100 bars, vous ne faites pas une atmosphère à 0 degrés Celsius. Vous savez que sur Vénus actuellement, il y a 450 degrés à l'ombre. En plus, il n'y a pas d'ombre et il y a 100 bars. Même les métaux fondent en 20 minutes. Donc, ce n'est pas très vivable. Eh bien, on est à peu près convaincu que cet impact géant-là, qui a fabriqué la Lune, comme la Lune était à portée de main, il y avait des effets de marée importants. Dans un magma maintenu comme tel pendant très longtemps, l'eau qui est retombée du disque dans ce magma a été maintenue. Il a été possible donc de faire rentrer cette flotte dans le magma qui a été humidifié. Le manteau de la Terre est devenu humide comme cela. Et la tectonique des plaques, probablement, est née de ça. Du fait que vous fluidifiez votre magma simplement parce que vous l'humidifiez. Enfin, pas simplement, mais parce que vous l'humidifiez. Et quand, se refroidissant, l'eau est remontée en surface, elle a trouvé des conditions de pression et de température qui sont juste au-dessus du point triple et juste en dessous du point critique. C'est quand même assez extraordinaire. Ce qui fait que l'eau était stable et est restée stable jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'est passé beaucoup de choses avec cet impact géant ici. Et à nouveau, l'apparition de la Lune a été tout à fait fondamentale. Et bien sur Mars, on est à peu près convaincu que la dichotomie, c'est de ça le résultat aussi. Il y a eu un impact aussi important. Et que Phobos, c'est probablement le résultat de ces affaires-là, mais je n'ai pas le temps d'en causer. Et après, il y a eu donc cette phase de bombardement qu'on appelle tardif, qui donne les signatures que l'on voit partout, sur la Lune, sur Mercure et sur Mars. C'est ça les traces que l'on voit, parce que c'était quelque chose qui a imposé son truc. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a eu entre ? Eh bien entre, c'est là qu'il y a eu de l'eau qui était stable à l'état liquide. Et c'est ça que je représente ici. Il y a eu de l'eau liquide stable là parce que c'est nos argiles qui le disent. On trouve des argiles fabriquées par ça justement dans des terrains qui sont intermédiaires ici. Et c'est ça qui est tout à fait rigolo, comme vous allez voir, c'est que c'est le seul endroit dans le système solaire où on ait, par ces argiles, donc par ces terrains, accès à cette phase-là. À cause de ça et de ce qui s'est passé ensuite, on en a perdu toute la mémoire partout ailleurs dans le système solaire. Et donc, si je représente rapidement ici, mais je vais le faire en grand, l'évolution de Mars. Au début, il y a eu cette phase de cratérisation. Ça donne une planète qui est cratérisée d'une manière homogène. Et puis à la fin, vous avez cet impact géant qui a dû virer ça. Et puis ensuite, il y a de l'eau partout qui s'est mis à, alors pas forcément aussi dense que ça, mais qui s'est mis à transformer toute votre croûte en argile. Et si on avait fait une image avec Oméga de Mars à l'époque, on aurait trouvé des argiles absolument partout. Alors pourquoi il n'y a pas eu ça après ? Ben, c'est qu'au bout d'un moment, l'eau, pour une raison que je vais vous dire dans deux minutes, a disparu de cette planète. Mars a vu son climat changer et l'eau a disparu de la planète jusqu'au moment où il y a eu la phase de bombardement final qui a été très intense, qui a fait ces grands trous que l'on voit actuellement, ces grands bassins qui s'appellent Hellas, Argyre, etc. Et donc qui ont tout rebombardé. Et si vous rebombardez tout, eh bien vous allez recouvrir votre surface avec du matériau plus profond. Et c'est ça qui explique que si vous regardez votre croûte aujourd'hui, eh bien elle a la composition d'origine parce qu'essentiellement c'est du matériau profond qui l'a recouverte. Et que même s'il y avait, on pense, plusieurs centaines de mètres d'argile, entre 200 et 500 mètres d'argile après cette première phase d'avant, 500 mètres d'argile dans le bombardement, ça a été complètement labouré. Et sauf si vous avez des instruments à très haute résolution et que vous voyez des tout petits spots, vous ne les voyez pas. Et puis après, il y a eu la suite. Et donc, vous avez eu de l'eau, c'est ça que je vous mets, la croûte de Mars était probablement complètement irradiée, c'était ça. Et l'ère de la stabilité, elle a décliné ici. Pourquoi ça s'est arrêté et où l'eau est passée ? Là, je vais être rapide parce que je vais vous le dire d'un mot. Mais on pense que si l'ère de stabilité de l'eau a décliné, c'est que là, tout d'un coup, l'atmosphère de Mars a disparu. Et pour que l'eau puisse être stable à l'état liquide, je dis qu'il faut que la pression le permette et que la température le permette. Pour que la température le permette, il faut, comme on est beaucoup plus loin du Soleil et qu'en plus le Soleil était beaucoup moins costaud qu'aujourd'hui, eh bien, il faut beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, si l'atmosphère est trop ténue, il n'y a pas assez de gaz à effet de serre. Et l'eau n'est plus stable à l'état liquide. Et donc, elle percole dans le sol ou elle part dans l'atmosphère et elle part avec tout le monde. Qu'est-ce qui a déclenché cet échappement ? Eh bien, l'idée que l'on a, qu'on a proposée, c'est que cette planète avait un champ magnétique et que le champ magnétique s'est arrêté d'un coup. Je ne vais pas être long pour l'expliquer, juste d'un mot pour ceux que ça pourrait intéresser. Qu'est-ce qui nous fait dire cela ? Eh bien, ce qui nous fait dire ça, c'est que aujourd'hui, les Américains ont envoyé avec la sonde MGS un instrument qui, pour la première fois, a mesuré le champ magnétique de la planète. Et cet instrument a montré qu'il n'y a plus de champ magnétique global. Il n'y en a pas aujourd'hui, et qu'en même temps qu'il n'y en a pas, on peut dire qu'il n'y en a plus parce qu'il y en avait dans le passé. C'est que cette sonde a réussi à faire quelques survols rapprochés, je ne vais pas vous expliquer comment, au début de sa mission. Et elle a montré que la croûte, et là, partout où vous voyez des couleurs ici, c'est ce qu'on appelle des anomalies magnétiques. Mais vous voyez que tout ça, c'est les terrains cratérisés. Eh bien, les terrains cratérisés sont magnétiques, alors que le reste de la planète n'est pas magnétique. Et ça, je pourrais l'expliquer s'il y en a que ça amuse, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la croûte, les terrains qui forment la croûte, se sont solidifiés en présence d'un champ magnétique. On peut montrer depuis longtemps que quand vous avez une roche, vous la chauffez à haute température, elle se démagnétise en se refroidissant. Si elle se refroidit à travers... elle passe à travers ce qu'on appelle la température de Curie, quelques centaines de degrés. en présence d'un champ magnétique, elle va figer les conditions du champ magnétique de l'époque. Et même si le champ magnétique disparaît, elle garde ce champ magnétique, ce qu'on appelle un champ magnétique rémanent. Eh bien, Mars est comme ça. Et donc, il y avait un champ magnétique tôt qui s'est arrêté. On peut expliquer pourquoi, je peux vous expliquer pourquoi on pense que le champ magnétique s'est arrêté. Mais l'important, c'est que vous voyez que tous ces grands trouets-là, ces idées, etc., ils ne sont pas magnétiques. C'est-à-dire que la deuxième phase de bombardement s'est passée après l'arrêt de la dynamo, parce que sinon, il serait magnétique aussi. Et pareil pour Tarsis et compagnie. Quand le volcanisme est arrivé à la surface de la planète, déjà le magnétisme avait disparu. Et donc, c'est ça qui explique qu'il y a une coïncidence, une corrélation entre le fait que les terrains cratérisés ici sont magnétiques et que c'est là-dedans qu'on trouve de l'eau stable à l'état liquide. Et le lien entre les deux, c'est que, et c'est pour ça que je dis que c'est que tant qu'il y avait une dynamo, cette dynamo entretenait un champ magnétique qui entretenait un bouclier magnétique autour. Et un bouclier magnétique, c'est très important parce que le Soleil à l'époque était une étoile jeune qui soufflait un vent beaucoup plus important, qui ionisait les atmosphères, et vous n'êtes pas blindé contre. Le Soleil, tout simplement, arrive à faire évacuer très rapidement des bars entiers d'atmosphère. Et donc, tant qu'il y avait le champ magnétique, vous aviez quelque chose qui préservait l'atmosphère. Du jour où la dynamo s'arrête, vous n'avez plus rien pour vous protéger contre le Soleil, qui, à l'époque, était bien plus létal qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la dynamo s'est arrêtée? C'est essentiellement le fait que Mars étant de plus petite dimension, la teneur radioactive est plus faible, et donc la convection dans le manteau. Il n'y avait pas eu assez d'énergie radioactive pour entretenir la convection dans le manteau suffisamment longtemps. Et si vous n'avez plus de convection dans le manteau, vous n'avez pas de moyen efficace d'extraire l'énergie du noyau. Et donc, vous supprimez aussi la convection dans le noyau qui a besoin d'un éclaté important. Pour fabriquer, il faut fabriquer du froid en haut du noyau pour qu'il plonge à l'intérieur. Bref, c'est la teneur radioactive du manteau, trop faible sur Mars, qui fait qu'au bout de, on ne sait pas quand, 100, 200, 300 millions d'années, la dynamo s'est arrêtée. Et donc, l'habitabilité, comme on dit, la possibilité pour Mars d'avoir eu de l'eau, s'est arrêtée très tôt dans l'histoire. C'est après qu'il y a eu les bassins et après qu'il y a eu Tarsis. Et donc, avant, il y a eu un changement climatique global sur Mars. Et vous voyez que les argiles sont formées avant. Et vous voyez pourquoi je dis que cette image est profondément fausse. C'est qu'elle, elle voudrait dire qu'il y a eu des océans stables alors que Tarsis est là. Vous voyez, Tarsis et les volcans. C'est-à-dire que ça prétend qu'après que tout soit formé, il y aurait encore des conditions climatiques qui permettraient à l'eau d'être stable à l'état liquide. C'est exactement le contraire. On est convaincu maintenant que si on veut chercher des terrains où il a pu y avoir un océan, l'océan n'était pas là, l'océan était précisément dans les parties non bleues de cette carte. Puisqu'il faut justement trouver l'océan dans des endroits qui ne sont pas les endroits les plus profonds, comme l'intuition l'aurait dit. C'est des terrains qui, au contraire, n'ont jamais vu d'eau ici, autre que très tôt dans l'histoire, à une époque où la dynamo a pu faire encore qu'il y ait eu une protection qui a fait que l'atmosphère a maintenu ça. Mais là-haut, ça a été recouvert ensuite par de la lave, tard justement, la lave qui vient d'ici. Et il y a 3 km au moins de lave sur des terrains qui peuvent avoir, eux, en dessous éventuellement des argiles, et on a montré qu'ils en ont d'ailleurs, mais qu'ils les ont plus à la surface. Donc il y a eu un changement climatique global de Mars. On est passé d'une atmosphère dense à une atmosphère ténue, de l'eau liquide stable à pas d'eau liquide, chaud humide, froid sec, un pH basique, pH acide, et peut-être l'habitabilité. Donc voilà nos argiles ici. Et pour terminer, juste un parallèle, si vous acceptez encore 2-3 minutes, avec la Terre. Vous savez que la Terre aussi, on lui donne des aires, et il y a une aire bien connue sur Terre qu'on appelle l'archéen, qui vient d'archéos, le renouveau en grec. On date ça en général, ça dépend des livres et des auteurs, mais c'est toujours entre 3,5, entre 3,8 et 3,9 milliards d'années. Et les gens disent, ben voilà, la vie sur Terre a démarré à 3,8 milliards. Et quand on regarde 3,8, c'est justement la fin du bombardement massif. Et pourquoi les gens disent que la vie a démarré là? Ben c'est parce qu'on a trouvé les plus vieux fossiles, dans les fameux stromatolites, d'algues bleues que l'on a, datent de là. Mais d'après moi, c'est vraiment le syndrome du réverbère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder ailleurs, on voit qu'il y a de la lumière ici, donc on dit qu'il y en a. Rien ne dit que ça n'a pas pu démarrer avant. Mais en tout cas, c'est ça qu'on dit, que la vie sur Terre date de là, et qu'avant, donc, ça s'appelle l'AD1, Hadès, c'est le dieu des enfers, donc ça c'est l'enfer, donc ça c'est le paradis. Si vous voulez savoir quand ça a démarré, c'est là. Et donc, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que tant qu'il y avait des impacts, vous ne pouvez rien faire, parce qu'il y a un impact, ça stérilise essentiellement. Et donc, sur Terre, sur Mars, les gens ont toujours pensé, et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, que je crois fausse, elle dit la même chose, que sur Mars aussi, il faut attendre la fin du bombardement et que c'est après Tarsis, etc., qu'on a de la vie. Probablement, sur Terre comme sur Mars, c'est une idée qui est fausse. Qu'est-ce qui dit que la Terre n'était pas habitée plus tôt? Ce qu'il dit, bien sûr, rien, mais est-ce qu'elle ne pouvait pas être habitable, même si on n'en a pas trace? Alors, je n'ai pas le temps non plus, mais il y a une et une seule mesure actuellement qui nous fait dire que il a pu y avoir des océans sur Terre aussi vieux que ça. Vous savez qu'il n'y en a aucune roche qui date de ça, parce que la géologie terrestre a effacé la mémoire des roches de l'époque parce qu'elles ont été entièrement transformées. Mais il se trouve que dans les roches primordiales, il y avait des petits cristaux qu'on appelle de zircon, c'est-à-dire SiO4, hein, qui sont des petites phases extraordinairement réfractaires, qui tiennent à très haute température et qui ont un tas d'avantages parce qu'elles tiennent à haute température et qu'en plus elles ont des petites inclusions d'uranium entre autres dedans qui permettent de les dater. Et on trouve des grands tas de détritus, et il y a deux endroits où on les a trouvés, dans l'ouest de l'Australie et au Canada, où on a récupéré des zircons et les gens les ont datés. Et on a trouvé pour la première fois, alors là c'est des minéraux, c'est pas la roche mère, c'est des petits minéraux qui datent de 4,1, 4,2, 4,3 milliards d'années. Et pour des raisons que je pourrais vous expliquer aussi, on a pu montrer que certains rapports isotopiques et puis certains phosphates qu'on a dedans montrent que ces zircons se sont formés dans une roche mère qui était en équilibre avec de l'eau et probablement de l'eau à haute température. C'est la seule mesure qui fait dire que probablement il y avait un océan sur Terre ici. Et donc s'il y avait un océan sur Terre ici, et qu'il y en a bien sûr depuis là, la question c'est est-ce que ça a effacé tous les océans? Plein de gens ont fait des calculs, pas plein, mais enfin, il y a deux groupes en tout cas qui ont publié là-dessus, dans le groupe de Morbidelli à Nice, qui a montré que non, cette phase de bombardement tardif n'a pas viré plus que 15 à 20% au maximum des océans. Donc probablement les océans, ils ont été continus ici. Et donc, s'il y a eu un océan en continu, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y a pas les mêmes conditions avant. Il y avait de la flotte avant, il y avait les mêmes impacts de micrométéorites, le même carbone, tout ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il n'y aurait pas eu la vie qui a démarré plus tôt? Bien sûr, on n'a pas d'accès à ça. Mais, et on ne sait pas comment la vie, et on a peu de chances de le trouver sur Terre, vu qu'on n'a plus du tout la trace des conditions environnementales de cette époque. Mais Mars a peut-être la réponse. Pourquoi? Parce que aux zircons correspondent justement les argiles. C'est-à-dire que les argiles et les zircons datent du même moment, formés dans les mêmes environnements, probablement, présence d'eau. Sauf qu'ici, on a perdu le contexte, mais que là, on l'a gardé parce qu'on a toute la roche. Si on va dans les terrains cratérisés du Nord, là, on a trouvé nos affaires, en particulier Mars Vallis, on a des strates qui montrent l'évolution de l'environnement depuis le moment où la planète s'est formée jusqu'à la fin du bombardement, quasiment, jusqu'à l'apparition du kaolin, etc. Donc, on se dit, ben voilà, peut-être qu'il faudrait vraiment aller là. Si Mars a la réponse, il est temps d'aller regarder ça. Eh bien, quand on regarde en termes de terrain analysé où les sondes se sont posées, pour des raisons un peu que je vous ai montrées, les Vikings, Phoenix, Passion, etc., ça a toujours été des terrains ici, pour des raisons liées à ce que l'imagerie nous donne, à nouveau. Personne n'a jamais été exploré ça. Et donc, on s'est dit, ce coup-ci, il faut y aller. Or, il se trouve qu'on a mis en évidence des terrains qui datent de là, dont on peut montrer qu'ils datent de là. Eh bien, il y a une grande sonde américaine qui part à la fin de l'année, et je vais vous montrer une image dans un instant, qui s'appelle MSL, elle part en novembre de cette année, c'est un énorme 4x4, c'est le plus gros rover jamais envoyé, qui aura la possibilité de faire plus de 20 km, qui a des batteries nucléaires pour pouvoir aller pendant 2 ans sans s'arrêter. Une très belle image. Ça va être superbe, et il a une charge utile des instruments qui ne sont pas les meilleurs, mais qui ne sont pas les moins bons non plus, donc ça va être assez remarquable. Eh bien, la NASA a mis sur pied tout un processus de sélection des sites. Et on est parti, d'abord il y avait une centaine de sites, puis 50, maintenant on en est à 4. Et depuis la deuxième réunion à peu près, quand les Américains proposaient, tout le monde a le droit de proposer un site, il y a une réunion tous les 6 mois, et vous allez dire, tiens, il faut se poser là, voilà la raison. Ça fait maintenant plus d'1 an que les Américains disent, vous proposez ce que vous voulez, mais pour celui-ci, on ira là où les Français et les autres ont vu des argiles. Ce site sera un site où il y a des argiles. On a été reconnu comme effectivement ayant mis en évidence le fait que ce coup-ci, il ne faut pas louper la cible et qu'il faut aller dans ce terrain-là. Et donc, on est content. Les 4 sites qui restent, dont le Mars Vallis, mais les 3 autres sont pareils, sont des sites qui ont été reconnus comme allant voir ce qui se passe ici. Et donc, à partir de la fin de cette année, pour la première fois, on va avoir un engin qui va explorer dans le système solaire une zone, une aire que personne n'a jamais été voir, parce que sur la Lune non plus, on n'a jamais été là. On n'a jamais pu voir des terrains, parce qu'on s'est posé essentiellement dans les mers lunaires qui sont formées à peu près dans ce terrain ici. On a quelques terrains continentaux qui ont été explosés comme ça par des caillasses, mais on n'a jamais pu voir ces structures-là. Donc on n'a jamais été explorer ces terrains-là. C'est la première fois qu'on va aller voir ça. Et on se dit que, voilà, la sonde MSL, elle est beaucoup plus grande elle, en vrai que ce qui est représenté là, puisqu'en vrai, la MSL, ça fait à peu près toute cette image-là. Ça fait 800 kilos. C'est vraiment un très grand 4x4 qui va se poser. Et il va aller, on espère, aller se poser sur ce site-là parce que c'est un des sites les plus prometteurs de ce point de vue-là. On avait, et je dis hélas, on avait jusqu'à il y a très peu de temps le projet en Europe de continuer l'exploration martienne avec une mission qui s'appelle ExoMars. Je dis on avait parce qu'elle est en très grand péril actuellement. C'est une sonde où l'Europe avait décidé de faire tout ça. Avec, je crois, je le montre ici, la possibilité de faire un forage profond pour vraiment ne pas avoir d'ambiguïté sur ce qu'on trouve et de prendre des choses jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et c'est une mission qui est faite essentiellement entre l'Italie, la France et les Britanniques. Les Britanniques font le châssis, la France fait beaucoup de choses et les Italiens font le laboratoire ici et le drill. Mais il se trouve que c'est dans le cadre d'un programme dont je ne vais pas parler ici, qu'on appelle un programme optionnel, où chaque pays décide combien on va mettre. Ce n'est pas un programme dit scientifique. Et la somme d'argent collectée comme ça ne suffisait pas à tout faire. Et donc l'ESA a été chercher la NASA pour le lancer et le faire le poser. Donc nous, on l'aurait fait et la NASA l'aurait posé avec le même système qu'ils vont poser MSL. Et la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils ne le feront pas, qu'ils n'auront pas la capacité d'en poser deux à la fois. Or, ils veulent poser le leur. Et donc, il y aura un seul rover. Et donc, c'est la révolution en ce moment en Europe, parce que le seul maillon faible de notre histoire, c'est qu'il n'y a personne pour nous le poser maintenant, puisqu'on n'a pas développé en Europe le moyen de le poser, qu'on pourrait le faire, mais que ça coûte de l'argent et que les pays ne sont pas forcément prêts à les mettre. Et donc, on n'est pas sûr que cette mission va voir le jour. Et qu'il n'est pas exclu qu'on laisse les Américains seuls à l'exploration de cette planète, ce qui serait vraiment dommage. En tout cas, voilà. Et je termine par ces phrases pour dire que je voulais vous montrer comment, en 30 ans, en même temps que cette notion donc, de pluralité du monde, du fait que tout le monde est partout, est arrivé un blocage. On s'est dit, mais finalement, attention, on s'aperçoit qu'il y a des conditions très particulières qui font que la Terre est la Terre et que le reste du monde est ce que l'on voit, c'est très divers. Et que pendant très longtemps, les gens ensuite se sont dit, mais finalement, bon, ben, on peut comprendre, mais ça n'a pas marché sur Mars. On est en train de mettre en évidence maintenant la possibilité que Mars a pu voir éventuellement, on ne dit pas que ça a marché, des conditions très semblables à ce qui s'est passé sur Terre il y a 4,2 ou 3 milliards d'années. Et qu'en allant explorer ces endroits-là, on va peut-être pour la première fois trouver la trace du fait qu'ailleurs que sur Terre, il y a pu y avoir émergence du vivant. Et si on y arrive, ça montrera à ce moment-là, on aura la possibilité d'explorer les conditions qui ont prévalu lorsque la biochimie s'est mise en place. Voilà, et je vais m'arrêter là.
Là, à présent, si vous souhaitez poser des questions, monsieur.
Oui, donc vous dites qu'on n'a pas trouvé de carbonate sur Mars. Or là, je crois qu'il y a eu une étude récente qui vient d'annoncer là, que dans un cratère qui a bien montré les strates, ils ont trouvé une couche de carbonate.
Alors. C'est un bon point, mais qui va dans le sens suivant. C'est vrai que, quand je dis, d'ailleurs j'ai marqué en toutes lettres, il n'y a pas de grand champ de carbonate. On a pu démontrer, je crois, que l'essentiel du gaz carbonique initial n'a pas pu être précipité sous forme de carbonate. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de carbonate. Il y a deux sources possibles de carbonate à la surface de Mars maintenant, et probablement on peut les trouver. La première, c'est que si très tôt dans l'histoire, il y avait de l'eau stable à l'état liquide, comme on le montre, il a pu y avoir des gaz à effet de serre. Si ces gaz à effet de serre étaient du gaz carbonique, et ce n'est pas exclu qu'il y avait suffisamment de gaz carbonique, quelques centaines, peut-être de millibars, ça suffit à ce qu'une partie de ce gaz carbonique, en interaction avec l'eau, précipite sous forme de grains de carbonate, et que dans certaines des argiles, entre autres, qu'on va explorer là, on trouve des grains de carbonate, et qu'il y ait des processus qui aient pu concentrer ce carbonate dans certains endroits. On croit avoir identifié un endroit comme ça à la surface de Mars, dans un endroit où il y a des argiles, pour lequel, effectivement, il aurait pu y avoir une augmentation un petit peu supérieure à la normale des grains de carbonate qui fait qu'on a pu l'observer depuis l'orbite. Donc, dans certaines des météorites qu'on appelle martiennes d'ailleurs, on a trouvé des petits grains de carbonate. Donc, il a pu y avoir une fraction du CO2 initial qui s'est concentré comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut en aucun cas rendre compte de la dizaine de barres ou tout ça qui a disparu. Ça, c'est la première chose. La seconde, qui est peut-être plus importante, c'est que, et qui, je crois, fait directement référence à ce que vous citez. Il y a une sonde qui s'appelle Phoenix, comme vous savez, qui s'est posée il y a 2 ans l'hiver, et qui a montré que dans le sous-sol proche, il y a énormément de minéraux auxquels on ne s'attendait pas qu'on a trouvé. En même temps que des sondes en orbite avant, et pas mal d'autres après, ont montré qu'à la surface de Mars, enfin dans le sous-sol, mais superficiel de Mars, en disant sur les premières dizaines de mètres, il y a de l'eau. Et cette eau, elle provient essentiellement du fait que lorsqu'il y a de l'eau qui se condense, donc elle sublime au printemps, l'essentiel passe sous forme vapeur, mais une partie peut percoler. Et millions d'années après millions d'années, on a réussi à enrichir les dizaines ou quelques dizaines de mètres de la surface de Mars, du sous-sol martien, de glace d'eau. Donc il y a de la glace d'eau qui, en certaines latitudes, est relativement pérenne, c'est là que vous le dites. Et quand cette glace d'eau est relativement pérenne, on s'est aperçu que cette glace d'eau, interagissant avec le sol, induit énormément de réactions chimiques et des réactions minéralogiques. Et on a effectivement de la synthèse minéralogique, on peut dire quasiment à l'état solide, parce qu'il y a très peu d'endroits où cette glace d'eau est trop superficielle pour être à l'état liquide, mais il peut y avoir malgré tout d'interactions. Vous savez que les gens qui vont chercher des météorites en Antarctique, qui repèrent la météorite par le fait qu'à la surface de l'Antarctique, les météorites sont souvent sombres et donc la glace ne tient pas dessus, ils vont les chercher sur la face de la météorite qui est en contact avec la glace, elle est toujours blanche. Elle est toujours blanche quand elle la prend parce qu'elle est recouverte de sel. C'est-à-dire que la glace en contact avec la caillasse arrive à altérer un peu et faire une fraction de millimètre ou de l'ordre du millimètre de sel qui sont à la surface. Donc il y a des sulfates et de la même manière, il y a des carbonates qui se forment. En d'autres termes, quand je dis qu'il n'y a pas de carbonate, je veux dire que l'essentiel du processus qui, sur Terre en tout cas, a transformé le CO2 en carbonate n'a pas opéré sur Mars. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui, à la surface de Mars, et surtout dans le sous-sol martien, mais de surface à nouveau, des processus qui vont fabriquer en très faible quantité, mais malgré tout, pour une sonde qui va se poser là, suffisamment pour être détectée, une très grande variété de terrains, de minéraux, à partir des perchlorates que l'on a vus. Et là-dedans, il y a des carbonates. Donc j'ai tort de dire qu'il n'y a pas de carbonates. Bien sûr qu'on trouve des carbonates, de même qu'on trouve une très grande variété de sels différents, fabriqués dans des conditions qui sont très hors de l'équilibre, en sens où ce n'est pas des choses qui sont d'ailleurs... On essaye actuellement de reproduire des conditions similaires. On voudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent sur ces interactions hors de l'équilibre, à l'état solide, pour fabriquer ces roches. Ce que je voulais dire, c'est que ça se fait pratiquement... Il y a actuellement 10 millibars de CO2, donc il y a forcément un petit peu de CO2 qui diffuse. Qu'une fraction de ce CO2 donne naissance à des carbonates, c'est plus que probable, et on le mesure, effectivement. Et effectivement, comme maintenant, on a des images à très haute résolution qui nous permettent de voir des impacts qui se font à l'échelle de l'année, puisqu'il y a des endroits où on voit des sols qui n'avaient pas d'impact, et on refait une image un petit peu après, on voit l'impact qui se fait, et bien on s'aperçoit que quand il y a un impact comme ça, récent, ce qu'on appelle les impacts récents, qui sont faits depuis que la sonde Amaro est en orbite, on voit que quand il y a un impact qui se fait comme ça, l'éjecta, il est plein de petites structures, y compris de flottes, mais qui en 3 semaines disparaît. C'est-à-dire que c'est de la glace dans ce sous-sol dont je vous parle, qui est mise à la surface et qui se subline à l'échelle de quelques jours, en fait. La sonde repasse après, on ne voit déjà plus rien. Donc j'ai tort de dire qu'il n'y a pas de carbonate de ce point de vue-là. Il y a une synthèse minéralogique qui se passe dans des processus qui sont très différents de la synthèse minéralogique qui a fabriqué les carbonates terrestres à partir de dissolution du CO2 dans l'eau. C'est ça que je voulais dire.
Je pense qu'on va... Ah, d'accord. D'abord, Jean-Pierre, alors là, bravo, on t'écouterait toute la nuit, c'est extraordinaire. Tu sais que j'ai une autre interprétation des argiles sur la croûte ancienne de Mars. Parce que l'eau, comme tu l'as dit d'ailleurs, il y en a deux réservoirs. Il y a l'océan, c'est l'eau liquide à laquelle on pense tout de suite, mais il y a le manteau. Et à chaque fois qu'un volcan émet des laves, il les émet parce que le gaz pousse le magma, et dans ce gaz, 80% c'est de l'eau. Et au cours du refroidissement de ces laves, la plus grande partie de cette eau et des autres gaz d'ailleurs s'échappe, mais dans certaines circonstances, quand les surfaces découlées se refroidissent plus rapidement, ça piège une sorte d'autoclave naturelle qui conserve une partie de ce gaz dans des vides qui sont entre les cristaux. Et là, on sait qu'il se fabrique des argiles. Alors là, je ne dis pas du tout que le scénario n'est pas bon, mais je dis qu'il y en a peut-être un autre. Et que, justement, un des rôles de ces rovers, ça serait formidable si on savait localiser exactement où sont ces argiles détectées par Oméga, c'est-à-dire dans la roche, où sont-elles? Est-ce qu'elles sont entre les cristaux ou est-ce que c'est une altération qui affecte en fait la masse de la roche? Ça, ce sera décisif.
Sans être trop de spécialiste, comme on dit, juste deux points. Le premier, c'est sur l'eau dans le magma. Rien ne nous dit, un, qu'il y avait du volcanisme très tôt dans l'histoire, et deux, que ce volcanisme se faisait à travers un magma humide. Dès que l'on voit le volcanisme, on voit du volcanisme à partir d'âge, on va dire 3,8, 3,9 milliards d'années, où on voit ce qu'on appelle des pateras, on voit des sorties volcaniques, eh bien, tout ce que l'on voit montre que ce magma est incroyablement sec. On ne trouve pas une trace de flotte dedans, mais pas une trace, y compris les fameuses éjectalobées, on ne le trouve pas. Alors que tous les terrains qui sont beaucoup plus vieux, dans les éjectalobées en particulier, on voit les traces d'hydratation. Donc pour l'instant, on n'a aucune évidence, comme disent les Américains, aucune indication que le magma n'ait jamais été hydraté. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on ne trouve pas d'évidence de volcanisme très ancien. Au moment où les argiles se sont faites, rien ne nous dit qu'il y avait un volcanisme déjà en place. Tout le volcanisme que l'on voit, avec en particulier Tarsis et le remplissage des plaines du Nord, c'est arrivé 500-600 millions d'années après. C'est arrivé après la fin du bombardement. Il n'y a plus de cratères dans ces choses-là. Donc rien ne nous dit qu'il y ait un couplage. Je comprends bien ce processus, mais ce processus, je ne pense pas qu'il ait opéré parce que sur Mars, à l'époque où se formaient les argiles, même si c'était peut-être plus en profondeur qu'en surface, je ne dis pas que c'était forcément dans un océan de surface, il n'y a rien qui nous dise qu'il y avait vraiment une activité volcanique importante. Et je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait eu les réserves énergétiques qu'il fallait pour faire du volcanisme à l'époque, à l'échelle de la planète. Donc bon, je dirais que c'est ça. La troisième chose que je voulais dire, c'est à propos des abondances. C'est que dans Mars Valis, qui a préservé les conditions d'origine, on trouve des couches d'argile qui font 2 à 500 mètres, 2-300 mètres d'épaisseur. Et dans ces 300 mètres, la teneur en argile, c'est plus de 60%. Donc ce n'est pas des veines, ce n'est pas comme on a sur Terre des veines argileuses avec la roche. C'est ça d'ailleurs le mystère pour moi, qui n'est peut-être pas entièrement un mystère, mais on trouve une transformation presque globale de la roche initiale en argile. Et en même temps, le type d'argile que l'on trouve montre que le lessivage a été un faible degré, puisqu'on ne trouve que des argiles, magnésium et fer, et pas d'aluminium. Donc on a un faible degré de lessivage, mais qui a réussi à transformer la quasi-totalité de la roche en argile. Et c'est ça, à mon avis, la signature essentielle du processus, qui ne peut pas être un truc par un volcanisme à haute température qui va remplir les veines avec à peu près tous les produits de fluidité, et tu devrais trouver tout jusqu'à de la saponite et des choses comme ça, ce qu'on ne trouve pas. Après, en revanche, une fois qu'on a fait ces grands dépôts d'argile primaire, on a eu effectivement ces éruptions volcaniques, mais longtemps après, qui ont ramené, à la fin de l'ère où l'eau était stable, où nos argiles sont faites, l'eau a disparu de la surface. Une partie a percolé, comme je disais tout à l'heure, donc une partie est rentrée dans le sol. Et quand ensuite le volcanisme est arrivé, alors le volcanisme a pris cette glace, l'a remis en surface, et c'est cette montée rapide de la glace souterraine qui a fait ces grandes vallées de débâcle que l'on voit. Mais ça s'est fait, donc il y a eu énormément d'eau qui est arrivée. Mais l'eau qui est arrivée à ce moment-là, elle est arrivée dans un environnement où il n'y avait plus d'atmosphère, elle n'était plus stable, d'où l'idée qu'il n'y avait plus d'océan entretenu, et qu'en s'évaporant massivement, parce que les conditions étaient devenues acides et non plus basiques, elles ont donné naissance à ces grands champs de sulfate que Opportunité a vus. Et donc je pense que le changement climatique, c'est un changement entre un moment où il n'y avait pas d'eau dans le magma au démarrage, mais il y avait pas mal d'eau à la surface qui venait de tous les impacts, parce que les impacts vont mettre surtout de la glace en surface, mais il n'y a pas de processus pour le rentrer très profond au début, puisqu'il n'y a pas eu l'impact magmatique qui a été le cas de la Terre, qui a donné naissance à la Lune, etc. C'était beaucoup plus superficiel pour Mars. C'est pour ça qu'on récupère la dichotomie après. Le reste de la croûte n'a pas été en fusion avec ça à ce moment-là. Donc, je comprends bien ce processus, mais je ne crois pas, honnêtement, qu'il a été... il a pu être opérant, mais pas d'une manière majoritaire à la surface de Mars. Ce qui pose, bien sûr, une vraie question, de savoir quelle était, sous quelle forme. Moi, je pense qu'une grande partie de l'eau initiale, elle était gelée à la surface de Mars. On devait avoir peut-être une couverture de glace partout à la surface, et que quand tu as des impacts à travers cette glace, eh bien, tu arrives localement à faire ce que l'on voit, c'est-à-dire un lessivage du basalte sur lequel la glace s'est foutue, enfin, la croûte sur laquelle c'est, avec de l'énergie qui vient des impacts, beaucoup plus que de l'énergie qui vient du profond. Il faut voir que cette planète a toujours été suffisamment petite pour que le flux thermique, le radiogénique, était, à mon avis, assez faible. Même si on ne connaît pas la teneur exacte en uranium jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est une planète qui est morte quand même aujourd'hui. Donc, c'est assez facile de remonter dans le temps pour voir. Bon, enfin, voilà. Oui.
Oui, savoir ce que vous pensez de l'hypothèse de l'astronome qui interprète certaines tâches comme des mares d'eau liquide très salée.
Je vois à quoi vous faites allusion, mais... les fameuses brines. Je pense que le... À nouveau, ce que j'essaie de montrer là, c'est une figure à grande échelle. Mais bien sûr.
Ça met en corrélation avec les espèces de gouttes qu'on voyait sur les
de Phoenix, oui, oui. À nouveau, je suis convaincu qu'il y a des processus actuellement qui sont actifs à la surface, qui font ce genre de chimie un peu complexe, qu'on ne connaît pas bien, qui n'est pas globale, qui n'est pas majoritaire à la surface, mais qui fait qu'il y a énormément de... Que si on mettait son doigt à la surface de Mars maintenant, on verrait qu'il y a beaucoup de terrains salés, avec tout un tas de sels qui se fabriquent actuellement, et que l'essentiel de ces sels se fabrique dans la sous-surface, à nouveau, par tous ces processus-là. Il faut voir que sur Mars, il ne se passe rien. Il y a le temps, on a des millions d'années devant soi. Donc même une réaction peu probable, sur quelques millions d'années, vous arrivez à fabriquer tout ça. Donc je pense que l'essentiel du sol actuel est salé, acide, à partir d'un acide, et qu'il y a des processus qui vont, à un moment donné, concentrer ce genre de choses. Pourquoi il y a ce genre de processus? Ben parce que quand vous regardez l'évolution, ce qu'a montré d'ailleurs Lascar et ces gens-là, quand vous montrez l'évolution de l'obliquité actuellement, on sait qu'actuellement on a une obliquité donc de 25 degrés, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans un mode d'oscillation chaotique assez important, c'est-à-dire qu'il y a de 2 à 10 millions d'années, l'obliquité est passée jusqu'à plus de 35 degrés. Et quand on regarde à ce moment-là où la glace polaire va aller, on s'aperçoit qu'il y a une évaporation de la glace qui va se reconcentrer ailleurs. Et qu'on a identifié maintenant à la surface de Mars énormément de terrains qui ont pu, au cours du temps, sur les quelques dizaines de millions passés, former des calottes ailleurs des endroits où on pense. En particulier, tous les flancs volcaniques le sont. Et lorsque vous avez de la glace qui se concentre comme ça et qui tout d'un coup se disperse, alors vous avez toutes les chances d'avoir localement, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément, il n'y a pas de l'eau et de la précipitation, etc. Mais vous avez localement un moyen de précipiter par de l'eau qui est à la limite entre la glace, etc., des champs qui vont accentuer la concentration de toutes ces brines, comme on dit, de tous ces trucs-là. Donc, qu'on trouve à la surface de Mars des endroits qui sont très riches de ces sels ne me paraît pas du tout anormal. Il y a dans la sous-surface actuellement martienne une grande quantité de glace stockée, de la glace d'eau et de la glace de CO2 d'ailleurs. Et donc de temps en temps, vous en avez à la surface aussi, et quand l'obliquité se déplace, on voit, vous voyez bien sur les images, vous êtes familier avec ça manifestement, vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits à la surface de Mars où on a vu des glaciers qui ont disparu violemment, avec des pentes glaciaires. Et bien ça, forcément, ça doit entraîner le dessous tous les sels qui sont formés au contact de la glace et qui vont s'agglutiner quelque part. Donc si vous voulez, ça ne me paraît pas très étonnant. Mais ça ne rend pas compte à nouveau de la structure à grande échelle de ce qui s'est passé. C'est une planète pour laquelle, à grande échelle depuis quelques milliards d'années, pour l'essentiel, il ne se passe rien. Sauf qu'il y a de temps en temps un gros impact ou des glaciers qui vont se faire, etc. Donc localement, il se passe des choses. Mais c'est quand même très peu de choses. Même ces volcans géants, il y a un truc quand même étonnant. Vous voyez ces grands volcans, il y a ces caldeiras, les entonnoirs d'où sortent la lave. Maintenant, dans ces caldeiras, on voit les évolutions, on voit les effluves successives. Et maintenant, il y a des gens qui ont pris toutes ces différentes nappes de lave, ils les ont datées. Et bien dans la plupart des volcans, on peut dater les éruptions depuis maintenant, il y a les plus récentes, c'est quelques dizaines de millions d'années, jusqu'à plusieurs milliards d'années. Sur un volcan terrestre, au fur et à mesure que vous avez des éruptions, ça efface la mémoire d'avant. Ça veut dire que les volcans martiens, tout grands qu'ils sont, ils ont peut-être travaillé 10-12 fois, pas plus, donc un petit nombre de fois, et suffisamment peu pour ne jamais effacer, ou pratiquement jamais, peut-être sauf le Mont Olympe, la trace des effluves précédentes. Donc même ces volcans géants qui tendent à dire qu'il y a eu une énorme activité volcanique, il faut vraiment être modéré, je pense qu'il y a eu très peu d'activité volcanique. La grosse activité volcanique, c'est celle qui a fabriqué Tarsis et qui a rempli les plaines du Nord. Donc là, il y a eu un grand truc, et c'est ça qui a mis du soufre absolument partout. Il y a une énorme éruption de soufre il y a 4 milliards d'années qui fait que, où que vous posiez la surface de Mars, vous mettez un instrument pour mesurer, il trouve du soufre en grande quantité. Ce soufre provient de cette époque-là, mais pas forcément de sulfate, parce que ce soufre-là, il a fallu après que localement, il y a une montée par le volcanisme de flotte, justement, de cette glace qui s'est passée il y a 3-8 milliards d'années, qui localement a fait les sulfates. C'est pour ça qu'on trouve les sulfates uniquement autour de Tarsis. Quelqu'un ici?
Oui, bonsoir. Je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce qu'il est encore possible de trouver de l'eau dans les sous-sols martiens à très grande profondeur?
Alors, c'est bien sûr la grande question, parce que... Il y a deux réponses à ça. Il y a beaucoup de réponses à ça. La première chose qu'il faut dire, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, de même que les gens étaient convaincus que le CO2 était sous forme de carbonate, les gens se disaient l'eau est sous forme de glace souterraine. C'est que l'évolution de la planète, c'est que dans le temps, il y avait des océans, ça a piégé le CO2, et l'eau des océans, parce qu'il y a eu un déclin des conditions globales, l'eau s'est piégée sous forme de permafrost. Et donc, pendant très longtemps, les gens se sont dit il y a de la glace souterraine, à tel point qu'il y a deux radars qui ont été fabriqués qui tourne actuellement autour de Mars, un qui a la capacité de sonder jusqu'à 4-5 km, il est sur la sonde, il s'appelle Marsis, sur la sonde Mars Express, et un autre. Et l'idée des Américains à l'époque, parce que c'est des manips américano-italiennes, mais en fait, les Américains qui sont derrière, c'était de se dire, avec la première sonde, on va faire une cartographie jusqu'à quelques kilomètres de l'endroit où il y a de la glace, et une fois qu'on aura identifié ces trucs, on va envoyer un second radar qu'ils ont envoyé, qui lui aura une meilleure résolution mais moins de profondeur pour voir à quel niveau cette glace affleure tout près. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le diagramme de phase, comme on dit, la stabilité de l'eau montre, et de la glace, montre que si vous avez 3-4 km de glace, sous cette glace, par le poids de la glace, la pression de la glace, en dessous, l'eau est stable à l'état liquide. Donc la première idée qu'avaient les gens, c'est de se dire, puisqu'il y a forcément de l'eau dans le sous-sol sous forme de glace, si on est capable d'aller sous la glace, on va trouver de l'eau liquide. De même qu'en Antarctique, à 3 km de profondeur, il y a le fameux lac Vostok, qui est un lac de... naturel qui est fabriqué simplement par le poids de la glace au-dessus. Et donc les gens étaient convaincus de ça, mais il n'y a pas très longtemps, puisqu'ils ont fabriqué l'instrument qui est en orbite depuis 2004. Le résultat, c'est que Marsiste n'a observé aucune glace souterraine sauf sous les pôles. Il n'y a pas de permafrost à la surface de Mars. Mais comme je disais tout à l'heure en aparté, le problème, c'est que les gens qui ont fabriqué cet instrument, en particulier les Américains, comme ils ont le fait, non pas pour savoir s'il y a de la glace, mais pour en faire la carte, ils ne peuvent tout simplement pas dire qu'ils ne le voient pas. Parce qu'ils sont en état d'échec. Et c'est catastrophique pour eux. Parce que ils sont, si vous lisez leurs publications, vous pouvez les lire, ça va commencer par 10 raisons pour lesquelles, alors qu'il y a de la glace, ils ne la voient pas. C'est ahurissant, quoi. Ils sont obligés de faire... Il y a de la glace, évidemment, puisque les modèles disent qu'il y a de la glace, et pourtant on ne la voit pas, parce qu'elle est comme si, ou que notre instrument n'est pas comme ça. Et pourtant, l'instrument est d'une incroyable sensibilité, parce que quand ils sont au-dessus des pôles, où il y a de la glace, ils voient l'interface entre le bas, alors que c'est 4 km plus fin, et la croûte, extraordinairement bien. C'est-à-dire que s'il y avait une interface entre de la glace et autre chose ailleurs, surtout de l'eau liquide, où là, c'est la meilleure interface pour un radar, ça se verrait immédiatement. Donc, il n'y a pas de grande couche de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas localement... Mais c'est très en surface. Et l'autre radar qui s'appelle Charade, donc qui devait faire le complément pour voir à quel niveau l'eau affleurerait pour ensuite faire éventuellement un forage profond pour aller chercher de la flotte et des bestioles dedans, ben, pour l'instant, on n'a pas identifié. Donc la réponse, c'est la première partie de la réponse, c'est que par rapport au modèle que les gens se faisaient, à savoir qu'il y a de la glace dans les kilomètres de superficiels qui proviennent du fait que les océans ont percolé comme ça, ça, ça n'existe pas. Mais bien sûr, immédiatement, les gens se disent, bien sûr, c'est normal qu'on ne la trouve pas, parce que maintenant, on a refait tourner notre modèle, et la glace, elle n'est pas à 5, elle est à 6 km, le radar, il ne voit que jusqu'à 5. Donc maintenant, vous avez autant de gens qui disent qu'il y a de l'eau plus profonde que de gens qui, avant, disaient qu'elle serait, ce qui est normal, quelque part. Parce qu'ils peuvent pas, c'est difficile de revenir là-dessus. Nous, on est convaincus que, enfin, on est suffisamment convaincus de l'histoire de cette planète, en particulier de ce qu'on voit aujourd'hui, du rapport N2 sur CO2, qui a une explication cohérente pour expliquer qu'effectivement, cette planète a vu perdre son atmosphère très tôt. Elle a perdu tout ce qui n'était pas condensé, y compris la vapeur d'eau. Il y a actuellement, on pense que le réservoir d'eau de cette planète, il est sous trois formes. Il est sous forme des calottes, il est sous forme des minéraux que l'on a vus, hydratés, et un petit peu de glace, donc, qui est dans les mètres on va dire 10 à 50 mètres de surface, sous forme de ce givre qui percole dans le sol. Le total de tout ça, ça fait quelque chose entre 50 et 80 mètres équivalents. On va dire 100 mètres équivalents, mais c'est plutôt 50 mètres équivalents. Sur Terre, c'est 50 km. C'est-à-dire qu'il y a un facteur 1000 entre les deux réservoirs. Donc c'est beaucoup 50 mètres de flotte, mais c'est 50 mètres, c'est pas 50 km. Et même si vous prenez le rayon de la planète, il en manquerait beaucoup. Donc on pense que ce que l'on voit aujourd'hui comme eau, c'est une très faible fraction du réservoir initial d'eau qui provient des impacts. Parce que cette planète, elle a été impactée comme tout le monde, et donc elle a reçu autant d'impacts de comètes que la Terre en proportion de sa surface. Simplement, tous ces constituants sont partis très tôt dans l'histoire. Et on pense, c'est ça que je dis, une des idées, c'est cette histoire de champ magnétique, on peut en inventer d'autres. Mais on pense que très tôt, elle a perdu toute son atmosphère. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas d'eau visible. Mais on ne peut pas exclure, c'est toujours pareil, que quelque chose qu'on ne voit pas existe, mais ailleurs. Et donc, je ne peux pas vous démontrer qu'il n'y a pas d'eau à 10 km de profondeur. Et il y a beaucoup de gens, donc Steve Clifford, qui est le grand bonhomme là-bas qui travaille là-dessus, qui dit, mais maintenant j'ai tout refait, je sais que c'est entre 10 et 15 km. Voilà, l'avantage c'est qu'on ne pourra jamais le sonder parce qu'on n'a pas de radar qui peuvent descendre à cette profondeur. Mais vous voyez, il y avait un enjeu énorme là-dedans, parce que l'idée c'était de se dire, on envoie des sondes, on va mettre en évidence des fossiles peut-être un jour. Supposer qu'effectivement, il y a beaucoup de si bien sûr dans ce que je vais dire maintenant, supposer que dans les 10 ans qui viennent, entre MSL, peut-être ExoMars, puis un retour d'échantillons, on met en évidence qu'effectivement, sur Mars, il a pu y avoir l'émergence du vivant très tôt dans l'histoire. Ce serait incroyable comme histoire. Mais on pourrait démontrer en même temps les raisons qui font que cette vie-là n'a pas pu perdurer très longtemps parce que les conditions ont changé, comme j'essaie de le dire aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas aujourd'hui possibilité pour de la vie, même aujourd'hui, d'être encore active? Et la réponse est éventuellement oui. Parce que si on trouve de l'eau sous quelque forme, ça peut être des pores microscopiques, mais on ne peut pas exclure que ces pores soient des niches ou de l'eau ou des organismes vivants qui seraient restés en mode dormant très longtemps, puisqu'on sait que ce mode dormant est à ce point important en biologie, découvert depuis les Galapagos en 1979. C'est tellement important, la possibilité pour des êtres unicellulaires de passer en mode dormant, c'est-à-dire loin de toute possibilité de duplication, mais en gardant intègre les fonctions vitales pour que si la soupe repart, ça repart. Eh bien, on ne peut pas exclure qu'effectivement, au gré d'un courant d'air et voire d'un courant d'eau, certaines espèces soient encore aujourd'hui dans des pores, peut-être microscopiques. D'où l'idée de rechercher s'il y a de l'eau quelque part. Et je suis convaincu que si on avait trouvé de l'eau quelque part, ça aurait justifié une mission de très grande ampleur pour aller forer dedans et regarder, voire même une mission habitée. Je pense que la seule chose qui pourrait justifier qu'un jour il y ait des gens qui aillent sur Mars, ça serait que d'ici là, on démontre que la vie a émergé et qu'il y a possibilité pour qu'encore aujourd'hui, on la trouve, voire même en forant, en allant chercher sur place. Et là, on pourra envoyer quelqu'un pour aller regarder un peu.
Je ne sais pas ce que vous pensez. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite récemment au sujet de la perte de l'atmosphère dans l'hypothèse de l'absence de champ magnétique, où ils auraient calculé qu'avec ou champ magnétique, en prenant comme modèle la Terre, la perte serait pratiquement la même. Donc le champ magnétique ne protégerait pas tellement. Et également, ils parlaient de mesures actuelles de perte d'atmosphère sur la Terre et Mars, et pareil, que ce serait exactement le même taux.
Bon, vous êtes bien au courant, mais oui, le groupe en question, c'est donc Stage Barabash, c'est le groupe de Kiruna qui fait des mesures actuellement de taux de perte d'atmosphère. Il a un instrument sur Mars Express, ils en ont effectivement d'orbite autour de la Terre et de Vénus. Il compare les taux et alors, ce qu'il dit, même s'il l'a dit effectivement ça, et ça a même été publié, je ne crois pas qu'il le pense encore parce que c'est un peu compliqué de faire de l'interpolation. Tout le monde est convaincu. Pardon ? C'est pas vraiment que les mesures sont pas fiables, c'est qu'on mesure, enfin, pas fiable. D'abord, il ne mesure pas l'intégralité de ce qui se passe actuellement parce que il mesure pas les électrons de basse énergie. Enfin bon, on pourrait entrer dans les détails, mais il mesure pas forcément tout. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que ce qu'il mesure aujourd'hui n'est pas forcément représentatif du processus qui se passait à l'époque. Ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire la manière dont le Soleil interagissait avec les planètes, n'a rien à voir avec la manière dont aujourd'hui le Soleil interagit avec les planètes. Donc le processus physique lui-même qu'il mesure aujourd'hui dans les taux d'échappement, pour lequel le champ magnétique a un certain rôle, opposé de celui que l'on pense au démarrage, n'est pas le processus qui était dominant au démarrage, qu'on appelle le sputtering, la pulvérisation. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les processus d'échappement aujourd'hui, le champ magnétique ne joue pas, ou joue même éventuellement, ce qui est un petit peu dans le sens opposé. Mais lui-même reconnaît que ce qu'il dit est important, c'est-à-dire que par ce qui se passe aujourd'hui, depuis au moins 3 milliards d'années, Mars n'a pas pu perdre beaucoup d'atmosphère. En d'autres termes, et ça on est d'accord avec, si vous remontez dans le temps, ce n'est pas une perte comme ça progressive, c'est que l'atmosphère reste à peu près tout le temps comme ça. La question est de savoir si avant ça a pu ou pas remonter. Est-ce qu'on a pu avoir plus d'atmosphère ou pas? Et tout le monde est à peu près convaincu malgré tout qu'au démarrage, le Soleil était très différent de ce qu'il était aujourd'hui et que les propriétés du Soleil au démarrage font qu'il avait une capacité d'échappement d'atmosphère qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Le vent solaire aujourd'hui est un vent extrêmement faible. L'intensité du vent solaire, même si c'est 10 puissance 8 particules par centimètre carré seconde, ça fait très peu comparé à ce que c'était au démarrage où c'était probablement plus que 1000 fois supérieur. Avec en plus des atmosphères très fortement ionisées. Eh bien, ça signifierait que Vénus ait eu un champ magnétique très tard, enfin, au moins pendant le premier milliard d'années. C'est très difficile de savoir à quel moment. Non. On sait très peu de choses sur Vénus maintenant, et c'est extrêmement difficile de remonter aux propriétés de Vénus dans le premier milliard d'années. À quel moment, par exemple, on sait que Vénus a perdu son eau, et ça on le mesure bien par le rapport des surâches actuellement. À quel moment l'échappement s'est fait? Est-ce qu'il s'est fait dans le dernier milliard d'années ou dans le premier milliard d'années? Ça donnerait le même résultat. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'était Vénus très tôt. Il n'y a pas de raison de penser que Vénus n'a pas entretenu un champ magnétique très longtemps, parce qu'il avait les mêmes réserves radioactives que la Terre. Mais il n'y en a aucun. On sait qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de champ magnétique, donc ça s'est arrêté. Parce que l'on voit, ce n'est pas la rotation du noyau. Ce qu'on voit, c'est la rotation de l'atmosphère actuellement. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est extrêmement difficile. Donc, remonter aux propriétés internes de Vénus aujourd'hui, c'est très difficile. Et remonter aux propriétés du Vénus du premier milliard d'années, c'est pour l'instant totalement hors de... Il faudrait, oui, mais surtout pas celle-là. C'est-à-dire qu'il faudrait des sondes pour aller se poser à la surface pour mesurer des propriétés, en particulier le champ magnétique rémanent, ça c'est vrai. Mais comme vous savez, c'est pas simple de se poser sur Vénus. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses.
Une petite question par rapport à l'effet des tempêtes martiennes sur la redistribution des particules fines, notamment des argiles. Et autrement dit, ma question, ce serait de dire, est-ce que, par exemple, les nanoparticules d'hématite peuvent être issues de ça?
Que des bonnes questions. Si ça t'ennuie pas, je vais même remettre cette question dans un autre contexte. Il y a un truc incroyable avec les tempêtes. Quand on voit les deux images que j'avais montrées tout à l'heure, avant, après, on a vraiment l'impression que la tempête, elle est globale. C'est-à-dire que la tempête, elle recouvre toute la planète, comme on a l'habitude. Et donc on s'attend à ce que quand il n'y a plus la tempête, eh ben ça se dépose, et on s'attendrait à ce qu'après ça dépose, il y ait du sable partout. Et d'ailleurs, nous, quand on a fabriqué nos instruments au début, beaucoup de gens, dont je vais taire le nom ici parce que certains sont très connus du grand public, m'ont dit « ça ne sert à rien de faire ton truc, de toute manière, cette planète est recouverte de poussière, c'est partout la même composition, donc tu ne verras rien ». On fait sonde sur sonde, et on s'aperçoit que plus on augmente la résolution, plus on s'aperçoit que il y a des unités géologiques, il y a des unités structurales et que la composition change. Donc il y a pas du tout, elles ne sont pas du tout recouvertes. D'où la question, une vraie question, qu'on va d'ailleurs discuter la semaine prochaine. Comment se fait-il qu'on ait une tempête globale et qu'après la tempête, les grains retournent d'où ils étaient ? Mais quasiment au grain près. Il sait où il est parti, il y retourne. Bien sûr, ce n'est pas lui, mais enfin, c'est quand même comme ça. Il n'y a pas d'effet papillon sur Mars. Sur Mars, vous allez dans un terrain après la tempête, et après la tempête, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de tempête. C'est-à-dire que les grains, ils reviennent en place. J'aurais pu vous montrer des photos des dunes de ça. Il y a des dunes dans les cratères du Nord qui ont été faites au moment des impacts, en 4 milliards d'années. C'est le même matériau que vous avez là, avec le même olivine qui s'est formé depuis le début, non modifié. C'est ahurissant. Et pourtant, il y a une période où c'est entièrement recouvert, où on la voit recouvert, cette planète. D'où cette question. Comment expliquer ça ? Il n'y a pas la mémoire de l'eau, donc il n'y a pas la... Qu'est-ce qui fait que les grains savent où aller, quelque part ?
Ils sont peut-être un GPS, non ?
Oui, c'est ça, oui. Non, c'est des vraies bonnes questions, parce qu'il n'y a aucun modèle climatique qui prend ça en compte. Et d'ailleurs, chaque fois que je vois nos petits copains, et je leur ferai la semaine prochaine, donc, pour leur dire, mais attendez, mais c'est quand même une question au premier ordre. Comment vous expliquez ça ? On sait que les grains ne partent pas de n'importe où, ils partent de là où ils sont, mais après, on les voit partout, et pourquoi ils retournent là où ils étaient avant ? Donc... Il y a plusieurs réponses, à mon avis, à ça. La réponse première, c'est qu'effectivement, les grains que l'on voit comme ça, c'est pas des grains... C'est-à-dire les grains qui ont la capacité de recouvrir toute la planète, c'est des grains de toute petite dimension. Et tu disais nanométrique, c'est vraiment le cas. C'est des grains qui font vraiment quelques nanomètres, pas des micromètres. Or, tous les grains de quelques microns, ceux qui ont vraiment la capacité de masquer tout, parce qu'une couche d'un micron, ça t'obscure tout pour nos instruments, ceux-là, ils ne se déplacent pas, ou ils se déplacent très peu. Ils restent dans l'unité, essentiellement. Les gros grains ne vont pas loin. Les petits grains, ils peuvent aller loin. Ils peuvent monter d'ailleurs très haut, ils peuvent aller loin. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils vont loin, c'est-à-dire qu'ils montent très haut. Et je pense que ce sont eux qui sont d'ailleurs les sites de nucléation des quelques nuages que l'on voit. Entre autres, on a vu des nuages de CO2 à très haute altitude. Et comme je vous l'ai dit, on travaille pas mal là-dessus maintenant, parce que par rapport au problème terrestre, on aimerait savoir quelle est la physico-chimie de ces nuages, comment ça se forme les nuages. Et sur Mars, on a une petite chance de comprendre ça. Donc on a probablement des grains qui sont à très haute altitude, qui eux peuvent peut-être avoir l'impression de recouvrir toute la planète, qui ne vont pas forcément sédimenter partout, mais même s'ils sédimentent, on ne les verra pas, ils ne masqueront pas. Donc c'est une partie de la réponse. De quoi sont-ils faits maintenant ? Alors ça c'est une autre bonne question. On n'en sait rien, ils n'ont pas de signature. Est-ce que c'est des grains d'hématite ? Je pense que si c'était des grains d'hématite, on les verrait. Mon idée, mais ça c'est que ce sont des grains de magnétite, Fe3O4. Pourquoi je pense que c'est des grains de magnétite ? Et que la première couche d'irradiation qui se fait, avant de faire du Fe2O3, ça fait du Fe3O4, et que ces grains sont extrêmement petits, que dès qu'il y a un peu de tempête, ils se baladent, et que c'est eux les sites de nucléation des nuages, et peut-être sur Terre aussi. Pourquoi je pense ça ? C'est qu'il y a eu une manip, non, je n'ai pas d'image ici, qui était très drôle, sur les MIRS, sur les rovers américains, il y a deux rovers américains actuellement, ils ont des caméras, et comme toujours quand on a une caméra, on met toujours une cible avec des couleurs pour avoir une table de référence pour comparer, pour voir un petit peu si ça marche bien. Et donc, ils font de temps en temps une image de la cible. Et vous voyez l'évolution de l'image de la cible au cours du temps, dans les premières, et on voit qu'au cours du temps, ça se recouvre de poussière. Au bout d'un moment, c'est tout rouge. Simplement, quand vous regardez l'image de la cible, moi, ça m'amusait au début, j'allais toujours faire ça, je regardais les images, il y a toujours un petit point blanc qui reste toujours en plein milieu. Donc je me dis, c'est bizarre, il y a toujours ce point blanc. Je voulais savoir si c'était une erreur dans le truc. Je me dis, non, pas du tout, le point blanc... Il m'a d'ailleurs dit, tu fais bien de voir ça parce que c'est très intéressant. Le point blanc, ce n'est pas un problème sur la caméra, c'est qu'il y a eu un petit... Ils ont mis un petit aimant sur le truc. Parce qu'il y a des gens qui voulaient regarder un petit peu les propriétés magnétiques. Et le petit aimant, il est fait de telle sorte qu'il repousse tous les grains qui tombent. Or, de quoi sont faits ces grains ? Les grains, c'est de l'olivine, des feldspathes, des pyroxènes. C'est des grains qui ne sont pas magnétiques. Or, ces grains qui ne sont pas magnétiques, ils voient l'aimant. Pourquoi ils voient l'aimant ? Parce qu'en fait, tous les grains à la surface de Mars, quelle que soit leur composition, sont bourrés de toutes petites pellicules dessus qui les rendent magnétiques. Et je pense que ces grains de Fe3O4 sont partout dans l'atmosphère martienne. Ils se collent sur ces grains, mais ils sont tellement petits que personne ne les voit, ni le microscope, ni les gens qui font de l'infrarouge. Mais ils sont sur tous les grains. Et donc, ma première réponse, c'est que ça serait non pas du Fe2O3, mais du Fe3O4, qui explique que tous les grains sont magnétiques, parce que si tu mets un aimant, tu les vois se déplacer, mais tu ne les vois pas à la surface. Fin de ma réponse. Ça recouvre aussi. Vous savez bien que c'était ça le grand problème de ces rovers, c'est qu'ils étaient donnés pour 3 mois au démarrage. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que les panneaux solaires seraient recouverts très rapidement et qu'ils ne pourraient pas. Et ce qu'ont montré ces missions-là, c'est que de la même manière qu'il y a des tempêtes qui recouvrent, de temps en temps, à peu près avec une période de 3 mois, il y a du vent qui nettoie tout ça. Et qu'en fait... En plus, il y a les fameux tourbillons qui montent. Ouais. Et donc, c'est ça qui est incroyable. C'est que ce que les gens ne savaient pas, ça a vraiment été découvert par eux. Il y a un nettoyage en permanence. C'est-à-dire que ces tempêtes, ils sont nettoyés très fréquemment. Et qu'en fait, les panneaux solaires, c'est pour ça depuis 2004, ils sont... Enfin, il y en a un qui est mort maintenant, Spirit, mais Opportunité, il est toujours plein pot vers le sud.
Ça veut dire aussi que les vents soulevraient que les nanoparticules, c'est pas assez fort pour soulever les particules.
Probablement, voilà. Des petits grains de quelques nanomètres, hein, c'est pas costaud. Bon, c'est une idée, là, pour le coup.
C'est pas un vent de sable.
Il y a un vent de sable près du sol, mais ça, c'est pas le vent de sable. Ça, c'est le résidu, ça monte jusqu'à 80 ou 100 km, hein, ça monte très très haut.
Voilà, merci. On va peut-être s'arrêter là parce que on pourrait parler encore pendant très longtemps. Avant de vous remercier, je voudrais juste faire, non pas une question, mais juste un petit commentaire par rapport à notre métier, à notre vocation. Je trouve que Mars est toujours un très très bon exemple parce que je me rappelle des premières exposés que je faisais sur Mars, entre ces premiers exposés il y a 10-15 ans et des exposés aujourd'hui. Voilà, on se trompait, on disait des... Non, pas des erreurs, parce que c'est ce qu'on savait à l'époque. Et du coup, donc, Mars, par rapport à notre métier, nous demande énormément de toujours documenter, parce que ben, ce qu'on sait aujourd'hui est différent d'il y a 10 ans. Mais en même temps, je trouve que c'est toujours très pédagogique, si c'était les mêmes personnes à qui on pouvait faire l'exposé, parce qu'on montrerait comment la science peut avancer. Il y a un exemple, un petit peu de publicité par rapport à un livre, une très bonne lecture, c'est cet impact en fait où on voit des éjectes à lobé, où pendant très longtemps on présentait ça comme un impact d'astéroïde, et s'il y avait un éjecte à lobé, c'est qu'il y avait de l'eau en dessous. Visiblement maintenant, c'est que c'est une comète. Et cette explication-là, je trouve ça très intéressant de montrer justement comment avec... Ben, plus de données, on fait évoluer nos connaissances. Voilà. Et l'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, surtout au début, c'était par rapport à la vie. Parce qu'aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est de confondre un petit peu l'hypothèse de travail, la vie est abondante, donc on peut la chercher, et de confondre cette hypothèse de travail avec directement la conclusion, il y a beaucoup de vie dans l'univers. Hein, et oublier le travail qu'il y a à faire entre, et ce travail-là, ben, il est en cours, et on n'a pas fini encore de trouver les solutions et de pas aller trop vite dans les résultats, donc de pas confondre hypothèse de travail et conclusion. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à des questions, c'était plus des commentaires par rapport à un métier, parce que je vois le temps qui passe et voilà, donc je ne voudrais pas m'éterniser. Donc en très bonne lecture, donc vous avez ce livre-là qui est paru il n'y a pas très longtemps, c'était l'an dernier, je crois, hein, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Et après, donc, je parlais en début de conférence que cette semaine-là, c'était une semaine liée à l'astronomie, ici à l'Espace Marais France et puis un petit peu partout en France avec le printemps des planétariums. Demain soir, il y aura à nouveau une conférence en astronomie avec un tout autre sujet. Ce sera plutôt une conférence en histoire des sciences où là, on reviendra un petit peu en arrière. Et on parlera de la mesure de la vitesse de la lumière par des techniques terrestres avec M. Fizeau et M. Doppler, Foucault, qui seront mis en scène dans un petit documentaire, un film. Et à la suite de cette projection-là, eh bien, Pierre Logini, qui a travaillé sur ce sujet, eh bien, fera une petite action, un commentaire donc, par rapport à ce documentaire. Donc c'est demain soir au Planétarium. Et en fin de semaine, vendredi prochain, donc là encore... On traitera de l'astronomie encore différemment. Ce sera donc pour s'adresser à tous, à un grand public, grand large, et notamment donc un public sourd et malentendant. Et donc ce seront des interventions en langue des signes. Voilà. Et samedi soir à Châtellerault, il y aura une conférence donc sur les cadrans solaires de précision du XVIIIe siècle. Voilà aussi pour essayer de montrer la variété des actions qu'on peut faire en astronomie. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie encore infiniment M. Bimbrig d'être venu ce soir et merci à tous.